et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 octobre 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
On
chers auditeurs, bonsoir. Bernard Lugan à l'antenne, avec bien entendu nos participants habituels, avec Dominique Vénère, avec Philippe Conrad, et ce soir, deux invités, le général Maurice Fèvre. Bonsoir, mon général.
Bonsoir.
Le commandant Raymond Muel. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. On ne vous présente ni l'un ni l'autre. Mon commandant, vous venez souvent sur cette antenne dans l'émission du commandant Guillaume, et vous, mon général, on vous a entendu assez régulièrement. Vous allez bientôt être un des piliers de cette antenne. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. Mais nous allons bien sûr, avec le général Fèvre et avec le commandant Muel, nous allons parler ce soir du contexte actuel de la commémoration des événements d'il y a une quarantaine d'années et de la désinformation historique à propos de ces manifestations et plus généralement du contexte de la guerre d'Algérie, car nous sommes face à une entreprise de déstabilisation non pas de la police, parce que la police est déstabilisée depuis longtemps, mais une tentative de contre-histoire qui est destinée totalement à désarmer les générations futures en leur inculquant l'idée de crimes imaginaires qui auraient été commis par les autorités de la France, de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc tout ceci s'inscrit dans une logique générale de subversion des esprits, de contre-histoire, et avec le général Fèvre, avec le commandant Muel, bien entendu avec Philippe Conrad et Dominique Vénère, nous allons faire régler son compte à cette contre-histoire, du moins nous allons tenter de régler son compte à cette contre-histoire. Alors, puisque nous parlons de contre-histoire, eh bien, il m'en arrive une drôle de contre-histoire, et nous allons commencer l'émission par cela, parce que, en pesant tout à fait les mots, je dois dire que je viens d'être victime d'une tentative d'assassinat scientifique. Simplement une tentative d'assassinat scientifique, et je tenais à en parler sur les antennes de Radio Courtoisie ce soir, parce que est en cours un processus dont le terme ultime est mon éviction de l'université. Donc une tentative visant à me mettre à l'écart de l'université pour les raisons politiques que nous allons évoquer maintenant avec Philippe Conrad.
Oui, nous sommes confrontés en effet à une chasse aux sorcières dont notre ami Bernard Lugan est la cible, dont je résume rapidement les étapes. Depuis une quinzaine de jours, la presse lyonnaise s'est fait l'écho, et en partie la presse nationale, d'une pétition d'une cinquantaine d'africanistes ou présentés comme tels français qui contestent le caractère scientifique des travaux de Bernard Lugan. Alors il faut savoir que parmi ces africanistes, nous en avons par exemple qui contestent l'existence des Hutus et des Tutsis dit au Rwanda, ou plus précisément, qui explique que ce sont des inventions de la colonisation belge qui en dit long, n'est-ce pas, sur le caractère scientifique de leurs propres travaux. Alors, cette offensive, cette entreprise, elle va nous allons avoir l'occasion aujourd'hui d'y répondre. Nous allons reprendre point par point les accusations qui sont lancées contre notre ami Bernard. Mais il faut bien comprendre que tout cela s'inscrit dans un programme d'ensemble, dans une entreprise beaucoup plus vaste qui vise en quelque sorte à exploiter, instrumentaliser l'histoire au service d'un certain nombre de causes, au service d'une certaine idéologie. Et il y a un certain nombre de choses que notre ami Bernard a parfaitement mises en lumière concernant l'histoire du continent africain sur différents points, que ce soit la traite des esclaves, que ce soit le bilan de la colonisation ou les tentatives actuelles d'afrocentrisme qui visent à faire de l'Afrique le berceau de toutes les civilisations et à partir de là à exiger, on l'a vu à la conférence de Durban, des pays coupables qu'ont été les pays européens occidentaux d'ailleurs exclusivement, des réparations. Il y a tout un enjeu considérable pour l'avenir donc derrière cette querelle, derrière cette offensive, et nous allons nous efforcer dans la première partie de cette émission répondre aux différents arguments avancés et surtout, aux différentes attaques dont Bernard Lugan a été l'objet.
Alors, et surtout de démonter la manœuvre.
On va essayer de démonter la manœuvre, et je précise aussi que pour avoir davantage d'éléments concernant cette contre-offensive que nous devons mener, nous invitons évidemment tous les auditeurs de Radio Courtoisie intéressés par l'histoire africaine à nous rejoindre demain soir. Bernard Lugan fera une conférence justement qui était prévue d'ailleurs depuis longtemps sur le politiquement correct en matière d'histoire africaine, où il évoquera ces différents points que j'évoquais il y a un instant. Et donc c'est une conférence qui aura lieu à la salle de l'industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés à partir de 8h30, et nous invitons les auditeurs de Radio Courtoisie intéressés par l'histoire africaine à nous y rejoindre. Alors Bernard, d'abord en guise d'introduction, il faudrait peut-être dire quelques mots de la grande misère des études africanistes en France, surtout si l'on compare leur bilan par rapport à ce qui est produit dans les pays anglo-saxons. Ici, à l'évidence, nous traînons des séquelles idéologiques extrêmement lourdes qui faussent très largement une toute véritable vision scientifique de l'histoire de l'Afrique noire.
Oui, en face de moi, parmi les 55 signataires de cette pétition, africanistes autoproclamés, il y a deux tiers d'africanistes qui cherchent et qui, à force de chercher, n'ont toujours pas trouvé. Et des africanistes dont la liste de publications, bien souvent, se réduit à une feuille de papier cigarette. Il y a dans cette série quelques agoraphobes qui ont été versés au CNRS car ils sont incapables de parler devant un amphi. Il y en a un tiers qui n'a pas soutenu sa thèse. D'autres qui ont des thèses sur travaux, c'est-à-dire qui ne sont jamais allés jusqu'au bout de leur thèse. Il y a, reconnaissons-le, 5 ou 6 grands noms de l'africanisme, mais ce sont des gens qui sont marxistes et qui ont toujours eu une approche différente de la mienne et qui règlent leur compte. Inutile de dire, bien sûr, que je suis en procès contre ces 55 personnes pour dénonciation calomnieuse. Alors, tout est parti de la conférence de Durban. Cette fameuse conférence de Durban antiraciste qui a eu lieu au mois d'août dernier. Et là, le président du Sénégal, le président Ouad, a déclaré, je le cite, donc à Durban, officiellement. C'était la déclaration du président du Sénégal. Aujourd'hui, le professeur Bernard Lugan de Lyon 3 France a renversé l'histoire, soulignant que tout ce qui a été soutenu par des historiens africains est faux. Il y a là une bataille à mener contre le racisme et la discrimination. Et je ne peux pas poursuivre. Et disons simplement qu'à la suite de cette déclaration, s'est créé un mouvement qui a pensé tenir là le moyen de me faire taire. Et 55 africanistes français se sont regroupés, ont rédigé une pétition, et cette pétition a été envoyée au ministre de l'Éducation nationale et au président de mon université, demandant l'annulation d'une promotion que j'avais reçue au mois de juin, et le but ultime, c'est mon éviction de l'université. Je ne suis pas scientifique, mes travaux ne sont pas scientifiques. Pourquoi ne sont-ils pas scientifiques ? Parce que entre guillemets, je défends l'apartheid, ce qui est une aberration. L'apartheid n'existe plus depuis 20 ans et je n'ai jamais défendu l'apartheid. Deuxièmement, parce que je suis un nostalgique de la colonisation. Et troisièmement, parce que j'ai une approche racialiste de l'histoire africaine. Donc, ce ne sont pas des reproches scientifiques qui me sont faits, ce sont des reproches d'opinion, justes ou fausses, supposées ou présupposées. Donc, nous sommes exactement dans le délit d'opinion absolue. Immédiatement, tout était organisé par le journal Le Monde, par l'antenne lyonnaise du journal Le Monde, car cette pétition est arrivée au Monde, et la correspondante du Monde à Lyon a sorti le samedi un encadré, pétition des africanistes contre Bernard Lugan. Immédiatement, le lynchage médiatique a commencé. FR3, France Info, les chaînes locales lyonnaises. Donc ça a commencé par une grosse offensive lyonnaise. Tous les journaux lyonnais. J'ai eu double page dans les journaux lyonnais. Un véritable lynchage médiatique. Toutes les associations gauchistes ont commencé à distribuer des tracts. Comment peut-on tolérer qu'à l'université enseigne un professeur qui a été dénoncé par le président du Sénégal et qui est dénoncé par 55 africanistes français, etc., etc. Donc, une grosse offensive. Et cette offensive, bien entendu, ne m'a pas abattu, parce que, bon, pour m'abattre, il en faut plus. Et j'ai donc résisté. Alors, j'ai résisté par plusieurs moyens. Première résistance, j'ai résisté par des interviews. J'ai été très pugnace dans ces interviews. Deuxième moyen de résistance, j'ai fait des communiqués. Troisième moyen de résistance, j'ai déposé des plaintes. Et j'ai plusieurs affaires judiciaires qui sont en cours, j'ai plusieurs plaintes qui sont déposées, et ceci n'a rien calmé, parce que le relais s'est fait au niveau national, et maintenant nous voyons la presse nationale qui en parle. Alors j'ai fait passer un droit de réponse dans Le Monde d'avant-hier, aujourd'hui je suis attaqué dans 2 ou 3 journaux, donc l'opération est en train de prendre un tour très important, d'autant plus que le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang, a désigné une commission d'enquête pour enquêter sur les affaires de Lyon 3, et la mairie de Lyon, qui est une mairie donc socialiste, a créé sa propre commission d'enquête, qui est composée des gens qui étaient les opposants de l'université Lyon 3 à l'époque où la gauche était dans l'opposition à Lyon 3. Donc nous avons comme commission d'enquête nos ennemis, et j'ai mes propres ennemis qui sont dans la commission d'enquête. C'est beaucoup plus facile. On a à la fois le juge, le procureur, le bourreau et le greffier qui appartiennent à la même corporation. Accusé, taisez-vous, vous n'êtes pas là pour prendre la parole. Donc une entreprise qui est tout à fait importante. Alors, cette entreprise est très importante, et si l'on veut tirer la leçon des événements, je ne suis pas du tout sûr de maintenir le cap face à l'offensive. Elle est tellement grosse. Mais intellectuellement, en revanche, j'ai gagné. Intellectuellement, j'ai gagné parce que maintenant, alors que l'on a tenté pendant des années de mettre le boisseau, de mettre le silence autour de mes travaux, ce n'est plus possible. Et l'un des signataires de la pétition le disait bien dans l'interview à un journal de Lyon, c'est une collègue de l'université parisienne, qui disait « Pendant 20 ans, nous avons essayé de faire le silence autour des travaux de Bernard Lugan, ce n'est plus possible. Il publie trop, il a sa revue, et ce qu'il y a de dramatique, c'est que nous commençons à voir ses livres dans les bibliographies de nos étudiants. Donc il fallait bloquer ça, il fallait le bloquer. Donc il me bloque en installant un cercle de feu autour de moi. Le but de l'opération est très simple. Je ne vais plus être invité dans les colloques. On ne peut pas inviter quelqu'un qui n'est pas scientifique. Deuxièmement, plus de recension de mes livres. Troisièmement, on ne citera plus mes travaux. Car mes travaux ne sont pas scientifiques, puisque 55 africanistes autoproclamés l'ont déclaré. Donc c'est une tentative d'assassinat scientifique, une très simple tentative d'assassinat scientifique, avec comme but ultime, je l'ai dit, mon éviction à mise à l'écart de l'université. Donc c'est une atteinte considérable à la liberté de penser, c'est unique dans les annales de l'université contemporaine moderne. Ça ne se s'est jamais produit. Et il faut bien que les auditeurs de Radio Courtoisie et conscience de cette de la violence et de du caractère exceptionnel de cette attaque.
Alors vous êtes quand même en bonne compagnie dans ce cas de figure, parce que c'est pas absolument unique. Il y a quelques années, je me souviens très bien comment le grand philosophe royaliste qui était le journaliste de la Nation française, Pierre Boutan, qui quand il est arrivé à la Sorbonne, il y a eu toute une cabale qui a été montée contre lui par les Alain Renaud et autres qui sont les philosophes officiels d'aujourd'hui pour essayer de l'empêcher d'accéder à sa chair. Donc vous êtes en très bonne compagnie.
Ah ben surtout Boutan. Mais je pense que à l'époque de ce cher et regretté Boutan, les épurateurs étaient moins puissants qu'aujourd'hui. Et Boutan a réussi à s'imposer parce qu'il a été défendu par des universitaires. Je signale qu'aucun universitaire ne me défendra. Pourquoi ? Soit ils sont... C'est très simple. Nous avons affaire dans un monde de prudents caméléons, je le dis bien souvent. Nous avons affaire... Moi, je suis un des rares hommes debout dans l'université française. Nous avons affaire soit à des gens qui sont gagnés à l'idéologie ennemie. Donc ces gens-là ne vont pas m'aider. Ils vont signer la pétition. Il y en a beaucoup qui sont pour moi. Mais quel est le fou suicidaire qui va me soutenir ? Le fou suicidaire qui va me soutenir va être à son tour mis dans le cercle de feu. Je dirais même des retraités ne peuvent pas me soutenir, parce qu'ils ne seront plus invités à des jurys de thèse, ils ne seront plus invités à des colloques. Ce qui fait que nous vivons dans un monde dans lequel l'assassinat de l'homme seul est tout à fait facile. Le problème, c'est qu'ils mourront, moi ils ne mourront pas, dans la mesure où, avant de m'assassiner, il faudra quand même qu'ils se lèvent tôt. Dans le communiqué de presse que j'ai envoyé, je termine mon communiqué en disant « Bernard Lugan ne se laissera pas intimider par les nouveaux inquisiteurs, produit du monstrueux accouplement de Lysenko et de McCarthy. » Parce que c'est exactement ça. C'est le produit du monstrueux accouplement de Lysenko et de McCarthy. Nous sommes dans le politiquement correct, à la fois bolchevique et libéral.
Tout à fait. Alors je crois que la meilleure manière de répondre, c'est de prendre certains des arguments avancés par ces prétendus africanistes, ces prétendus spécialistes, et puis de répondre. Je vois par exemple que l'on vous accuse de faire l'apologie du colonialisme. Alors autant que je me souvienne, il y a déjà plusieurs années, vous avez écrit un livre tout à fait passionnant qui s'intitule « De la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire » et dans lequel vous présentiez une analyse critique tout à fait positive d'ailleurs du colonialisme européen. Donc voilà des gens qui se lancent dans des accusations à partir de livres que manifestement ils n'ont pas lus.
Nous sommes en présence de scientifiques qui n'ont qu'une demi-partie du cerveau qui fonctionne. Des scientifiques qui ont une drôle de méthode scientifique, qui ne travaillent que sur mes livres publiés entre 1986 et 1990. Aucun de mes livres publiés après 1990 n'est cité en référence. Ils m'attaquent donc sur une période qui était l'époque de ma formative de ma réflexion intellectuelle sur l'Afrique. C'est tout de même extraordinaire. Dans les années 86-88, j'étais au début de mon processus de réflexion. Je rentrais d'Afrique orientale, je venais de passer 11 ans au Rwanda, j'avais une vision à cette époque qui était une vision très est-africaine. Et j'avais une approche très différente de la colonisation. Je n'avais pas l'approche que j'ai aujourd'hui. Et petit à petit, par mes travaux, je ne suis pas un dogmatique, j'ai une pensée qui a évolué. Eh bien, l'on ne s'intéresse jamais à ce que je dis dans mes publications récentes, l'on s'intéresse à ce que j'ai dit dans mes premières publications. L'on pourrait également aller chercher les articles que j'ai écrits quand j'écrivais dans l'aspect de la France en 1965-66, pour dire les travaux de Lugan ne sont pas scientifiques, regardez, il défendait Louis XVI en 1966. C'est tout à fait une méthode scientifique qui est totalement aberrante. Et ceci montre bien que nous avons affaire à une chasse aux sorcières. C'est un procès de Moscou. C'est un peu de... Or, je ne vais pas développer ici ma position scientifique sur la colonisation. Je l'ai déjà dit. J'ai toujours dit, depuis des années, que la colonisation avait été une parenthèse de paix pour l'Afrique. Nul ne peut le nier. Que cette colonisation avait eu des avantages et des inconvénients. Pour nous, colonisateurs, que des inconvénients. Parce qu'elle nous a coûté cher en moyens et en hommes. Pour l'Afrique, la colonisation a eu des avantages parce que nous y avons créé, mais elle a eu des inconvénients dans la mesure où elle a cassé les peuples moteurs de l'histoire africaine, les Prusses africaines, au profit des peuples vaincus de l'histoire africaine, qui, eux, ont été les bénéficiaires de l'histoire africaine. À partir du moment où nous avons cassé les empires qui étaient les empires prédateurs, et lorsque nous avons donné l'indépendance, nous avons généralement donné l'indépendance aux héritiers des vaincus de l'histoire africaine, aux dépens des vainqueurs de l'histoire africaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons les anciens vainqueurs de l'histoire africaine mis sous le boisseau à l'époque coloniale, qui relèvent la tête et qui reprennent le pouvoir. C'est ça la grande clé de l'histoire africaine. Pensez-vous que les petits marquis qui signent contre moi aient compris ce que je veux dire? Moi, ils n'ont pas lu mes livres.
Oui, bien sûr, ils cherchent pas à comprendre.
Non, on présente un nostalgique de la colonisation.
Alors, attaque à dominem. Il y a un autre point, évidemment, sur lequel l'adversaire est extrêmement virulent. C'est sur la question de la traite négrière. Alors, il y a des enjeux considérables. On a vu à Durban qu'il est question de demander des réparations aux Occidentaux, etc. Hein, on oublie que la traite, l'esclavage existait avant, qu'il a existé après, et que ceux qui ont mis un terme à l'esclavage, ce sont justement les Européens. Donc, y a quand même quelque chose de gênant là dans la démarche d'en face. Mais en tout cas, on vous attaque aussi là-dessus, sur la traite négrière, alors que on avait eu l'occasion d'en parler l'autre jour. Les travaux les plus récents dans le domaine anglo-saxon ont complètement relevé cette question-là, et dans un sens qui ne va pas dans celui de nos champions du tiers-mondisme militant.
Alors cela, bon, la réponse à cela, j'annonce le prochain numéro de l'Afrique réelle qui sortira fin novembre, qui va être consacré à la question de la traite, car c'est effectivement une question fondamentale. Fondamentale car l'acte d'accusation et les réparations que nos enfants, nos petits-enfants paieront reposent sur cette accusation. Parce qu'il faut bien voir que si je perds ce combat, si je n'ai pas les munitions pour mener ce combat, l'histoire de l'Afrique sera entièrement entre les mains de ces gens-là. Et dans 20 ans ou dans 30 ans, l'histoire officielle sera celle du péché colonial et de la culpabilité coloniale. Et il faudra donc payer des réparations. Et nos enfants, nos petits-enfants paieront des réparations pour des crimes non commis par leurs grands-parents. L'enjeu est là, c'est fondamental. Alors, j'en parle.
Sachant que les seuls trafiquants d'esclaves auront été les Occidentaux et surtout les Arabes.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je précise, je n'insiste pas là-dessus, parce que la prochaine émission de Radio Corridor sera consacrée à cela. Alors, disons deux exemples qui sont tout à fait intéressants. Un exemple, plutôt. Jusqu'à présent, le seul domaine dans lequel nous n'avions pas d'éléments bien précis était le domaine anglo-saxon. Ce qui permettait, au tiers-mondisme de dire, aux culpabilisateurs de dire, de toutes les façons, la traite a été une excellente opération pour les Européens qui ont pratiqué la traite. Regardez les Anglais. C'est sur les bénéfices de la traite que s'est faite la révolution industrielle anglaise. Donc, c'est sur la sueur des Noirs et sur la vente des Noirs que les manufactures de Manchester et tout le développement industriel de la révolution industrielle britannique s'est fait. Jusqu'à présent, c'était la thèse officielle qui avait été développée dans les années 1930 par un écrivain antillais marxiste et qui n'avait jamais été remise en question. Catéchisme définitif. Les Britanniques, les Anglo-Saxons, ont une approche de l'histoire africaine qui est différente de la nôtre, elle n'est pas idéologique. Et vient de sortir la monumentale histoire d'Oxford de l'Empire britannique, monumentale qui vient de sortir il y a quelques mois. Il y a du bon et du mauvais. Il y a des articles qui sont très idéologiques, mais il y a des articles qui sont remarquables. Il y a notamment deux contributions sur l'impact de la traite par rapport à la révolution industrielle britannique. Eh bien, la révolution industrielle britannique n'a été subventionnée qu'à hauteur de 1% par les bénéfices de la traite. Ce qui met complètement à plat l'idée de la traite des esclaves étant à l'origine du développement industriel de la Grande-Bretagne. Alors j'en parlerai dans l'Afrique réelle, j'en parlerai dans la prochaine émission. Mais c'est un exemple entre dix que l'on peut citer, qui montre bien que nous sommes là face à une grande manipulation, face à une grande imposture. Alors, si je dis cela demain, dans mes cours, je vais être taxé de raciste et je vais être interdit de cours. Mais je pense que la seule solution, c'est de se réfugier dans les pays anglo-saxons pour pouvoir travailler librement. On ne peut plus travailler en France.
Alors, il y a un autre argument avancé par l'adversaire, c'est celui selon lequel vous avanceriez et vous imposeriez une conception racialiste de l'histoire africaine, c'est-à-dire une conception qui privilégie le rôle moteur des diverses ethnies dans les dynamiques de l'histoire africaine, au détriment des nations souvent tout à fait artificielles qui sont nées de la colonisation. Alors, ça nous amène effectivement à constater constater qu'il s'agit pourtant là de vérité d'évidence, que dans beaucoup de pays africains, on a eu l'exemple du Rwanda, on a l'exemple du Soudan, on a l'exemple du Nigeria. Ce sont les facteurs ethniques qui sont déterminants dans les crises actuelles. Mais malgré tout, on vous reproche de constater et d'essayer d'expliquer la réalité, finalement.
Oui, on me reproche, on m'accuse d'avoir... Enfin, on m'accuse, non. 55 clampins autoproclamés africanistes qui ont la chance d'avoir les médias qui leur sont ouverts parce qu'ils sont ouverts sur ces médias parce par leurs diverses chapelles politiques.
Politiquement correctes.
Politiquement correctes. Me reproche d'avoir une vision racialiste. Ce qui est transformé dans la presse par une vision raciste. Ce qui est transformé par les étudiants gauchistes, une vision raciste. Bon, c'est très clair. Donc, comment peut-on confier des cours à quelqu'un qui a cette approche-là? Tout simplement parce que, avec l'expérience que j'ai de l'Afrique, et tous les gens qui connaissent l'Afrique ne peuvent pas dire le contraire, la grande donnée de l'histoire africaine, c'est l'ethnisme. Tout est ethnique en Afrique, et c'est la grande force de l'Afrique. Je l'explique encore dans mes livres. Je ne pense pas que l'ethnisme soit un handicap pour l'Afrique. Le tribalisme est un handicap. Et lutter contre l'ethnisme favorise le tribalisme. Et le tribalisme, lui, est un handicap, car c'est l'émiettement. Tandis que l'ethnisme est le passage obligé, c'est l'équivalent de ce que furent nos nationalismes au XIXe siècle. L'ethnisme est un facteur coagulant,
constructif.
Il est bien évident qu'il y a des ethnies qui sont plus fortes les unes que les autres, mais ceci est le rôle de tous les organismes sociaux. Deuxième élément. On me reproche d'avoir une vision d'approche racialiste de l'Afrique. Ceci est aberrant. Il est bien évident que lorsque j'étudie, par exemple, je viens de le faire pour un livre qui va sortir prochainement, je n'en parle pas pour le moment parce que là, nous allons bien rire également quand mes adversaires vont voir ce livre sortir. Lorsque l'on travaille sur les peintures rupestres en Afrique, il est bien évident que si l'on se borne à étudier l'aspect artistique des peintures rupestres, ce n'a qu'un intérêt limité, c'est de l'histoire de l'art. Mais pour nous, ethnologues et historiens, ça n'a pas d'intérêt si l'on ne fait que de l'étude artistique. Savoir que l'on a étudié telle peinture, tel kaolin, qu'on a peint avec du poil de chameau, du poil de girafe, c'est intéressant, mais ce n'est pas le fond du problème. Quand vous travaillez en revanche sur les représentations physiques, et que vous voyez qui a fait quoi, quelles sont les populations qui ont peint quoi, cela vous permet de définir les grandes aires ethno-culturelles de l'Afrique. C'est tout à fait important, c'est tout à fait fondamental. Alors, on me reproche d'avoir cette approche qui est une approche racialiste, ce qui n'est pas le cas. En fait, le grand problème, et ce qui m'oppose, c'est une querelle d'école. Je suis probablement, en France, le seul à avoir une approche de type anglo-saxon. Et c'est pour cela que l'on m'en veut. Pourquoi ? Parce que l'africanisme français meurt, car nous avons affaire à des gens minuscules qui travaillent sur des périodes minuscules du haut de leur vision minuscule. Toute leur vie, ces africanistes français travaillent sur de toutes petites périodes. Je ne parle pas des archéologues, attention. Je ne parle ni des géographes. Nous avons de très grands géographes tropicalistes français. Nous n'avons plus de grands africanistes historiens français. Nous avons des grands archéologues et nous avons des grands géographes. Et nous avons de pitoyables historiens, pour la plupart. Sauf ceux qui travaillent sur la période coloniale, mais qui c'est une histoire de type européen. Nous n'avons plus d'ethno-historiens de l'Afrique. Pourquoi ? Quel est le type de travail que mène un africaniste français ? La condition de la femme indigène pendant la colonisation. C'est passionnant, mais ça ne fait pas avancer la connaissance de l'Afrique. La grève des postiers de Bamako en 1952. Les mouvements sociaux sur le port de Dakar entre 1948 et 1956. Ce n'est pas de l'histoire de l'Afrique, ça. On peut aussi bien travailler sur la grève des postiers de Plougastel d'Aoulas. C'est exactement la même chose. Tandis que moi, je travaille sur quoi en Afrique ? J'ai la chance, le privilège unique, et je suis le seul dans l'africanisme français, de temps en temps, il faut dire les choses, je suis le seul, à avoir une vision globale de l'histoire de l'Afrique. Pourquoi ? C'est une chance, c'est ainsi. Le hasard de la vie, on fait cela. J'ai été affecté pendant 11 ans en Afrique de l'Est. Ce qui fait que, à partir du Rwanda, j'ai enseigné dans les universités toute l'Afrique de l'Est. Donc je connais toute l'Afrique de l'Est. J'ai ensuite travaillé pendant des années en Afrique australe. Donc j'ai déjà deux mondes que je connais bien. Le monde de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe. Je connais intimement l'Afrique du Nord et le monde de l'Égypte également. Je connais bien sûr l'Afrique de l'Ouest également. Moins. C'est moins mon domaine de prédilection. Je la connais, mais pas aussi intimement que le reste de l'Afrique. Je connais bien le monde saharien également. Ce qui fait que je peux faire une synthèse, je peux mettre les faits en perspective. Et lorsque j'étudie, par exemple, les populations du Sahara oriental, 5000 ans avant Jésus-Christ. Je vois dans ces populations pastorales d'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ ce que l'on va retrouver dans, dans les formes d'art de l'Égypte et ce que l'on va retrouver plus tard dans les grandes migrations nilotiques qui vont donner naissance à tous ces grands peuples de l'Afrique de l'Est, dont les Tutsis. Je travaille sur des milliers d'années. Ce qui fait que l'africaniste français est tétanisé devant mes travaux. Il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre. Lui qui toute sa vie va travailler sur une toute petite période. Chacun défend son petit os, son petit bout d'os arrangé. Moi je culbute les périodes. On me dit, mais vous êtes quoi? Vous êtes archéologue? Vous êtes spécialiste d'art ancienne, médiévale, contemporaine ou moderne? Je réponds toujours, mais écoutez, c'est une vision totalement européenne. Les divisions de l'histoire européenne, française, en France, l'histoire africaine française crève de cette division en quatre périodes. Histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Quelles sont les césures? La fin de l'histoire ancienne et le début de l'histoire médiévale, c'est la fin de l'Empire romain et les grandes invasions. L'Afrique ne les a pas connues. En dehors de l'Afrique du Nord. Moi, je parle de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, ce critère n'est pas licite. La période moderne, ce sont les grandes inventions et les grandes découvertes. L'Afrique continentale ne les a pas connues. Les grandes découvertes ont été littorales, mais il n'y a pas eu non plus la réforme, il n'y a pas eu la Renaissance. La période contemporaine est définie chez nous par plusieurs critères. Vous qui êtes professeur d'histoire contemporaine et Philippe Conrad, vous le savez bien. Ce critère a varié. Ça a été tantôt la guerre de 70. Maintenant, c'est plutôt la période qui précède la guerre de 14. Mais tout ceci est totalement étranger à l'Afrique. L'on a dû, à un moment donné, 1848. Donc, des critères qui ont changé. Que des critères européens. Ce qui fait que nos africanistes français sont dans une période. Et il y a quatre sections administratives. Nous sommes dans un pays jacobin avec des étiquettes et une administration. Et pour que les africanistes français progressent, il faut qu'il soit dans une section. Et on ne passe pas d'une section à l'autre. Alors si vous êtes en histoire contemporaine, vous ferez toute votre vie la grève des postiers de Bamako, la condition de la femme africaine à Tananarive en 1930 sous le Front populaire, c'est passionnant, c'est tout à fait intéressant, mais c'est quand même pas le cœur du problème de l'Afrique. Et vous êtes bloqué par vos périodes, chose que ne connaissent pas les anglo-saxons. Car les anglo-saxons qui sont réalistes, eux, n'appliquent pas ces césures européocentristes à l'histoire de l'Afrique. Alors voilà le fond de la querelle. Il y a une querelle idéologique. Il y a une querelle méthodologique. Et je dois dire que je suis, dans un sens, enchanté de savoir que je suis dénoncé par ces 55, entre guillemets, africanistes, parce que pour moi, c'est un signe d'honneur que de ne pas faire partie de leur monde. Je me sentirais déshonoré d'être considérés comme ces gens qui n'ont jamais été, certains qui n'ont jamais été capables de finir leur thèse, comme certains qui ont trois publications, comme d'autres qui connaissent un confetti géographique de l'Afrique et qui viennent s'imposer comme historiens de l'Afrique.
Oui, et puis qui de plus relèvent tous d'idéologies diverses dont on a pu constater l'échec depuis longtemps, que ce soit le marxisme dans ses diverses acceptions, que ce soit le tiers-mondisme et les ravages qu'il a fait. Alors il faudrait quand même ajouter, je pense que l'une des personnes qui vous attaque, et l'une des plus connues, qui est Madame Kocrivitovic, avoue quand même le fond de l'affaire, dans la mesure où elle a écrit très très clairement
noir sur blanc,
que le problème avec les travaux de Bernard Lugan, c'est qu'il y a une intention cachée derrière tout ça, c'est de déculpabiliser l'Occident, c'est de débarrasser l'Europe des états d'âme et des crises de conscience qui pourraient l'assaillir du fait de l'histoire de la colonisation. Et là, nous arrivons dans un enjeu qui est de type tout à fait idéologique.
Tout à fait.
Il s'agit pour ces gens-là d'apporter leur pierre à l'édifice, effectivement, de la culpabilisation, de la repentance qui va naturellement ouvrir la voie sur le racket organisé que l'on sait, on renvoie encore une fois à la conférence de Durban, et aux demandes de réparation qui sont effectivement exclusivement dirigées vers l'Occident, dont on sait que c'est pourtant lui qui a supprimé le dit esclavage.
C'est un combat fondamental. Hein. Si je perds ce combat, je vais pas le perdre moi-même, parce que moi je vais me battre, mais à un moment je n'aurai plus de munitions. Si je ne suis pas aidé par des amis, je vais le perdre. Parce que je suis obligé de faire des procès dans tous les sens. Car si je ne fais pas un procès, l'on va ensuite me dire, ah mais vous n'avez pas attaqué un tel, donc c'est que vous étiez d'accord avec ce que... Et chacun s'appuie. Donc je suis obligé de faire des procès tous azimuts. Donc je vais avoir besoin d'aide. Autrement, bon, j'arrête le combat, on cesse le combat, je rentre chez moi, je vais à la chasse, on n'en parle plus, l'affaire est terminée. Mais là, le combat est fondamental. Hein. C'est un combat que l'on mène pour les générations à venir. Car l'histoire de l'Afrique est quasiment entre les mains de ces gens-là. Et s'ils attaquent avec autant de virulence mes travaux, c'est parce qu'ils se rendent compte que je suis dangereux. Nous sommes à la limite de réussir à nous imposer, car ils ne peuvent plus faire le silence. Il faut maintenant m'aider.
Ils sont fous furieux, Bernard Lugan, parce que vous avez complètement détruit et déstabilisé leur interprétation de l'histoire. À travers l'histoire africaine, à travers ces travaux remarquables, constants, d'années accumulées, d'année en année, vous avez modifié l'interprétation, en effet, de l'histoire africaine, mais de l'histoire dans son ensemble. Et ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas tolérer. Donc vous êtes victime à la fois du succès scientifique qui est le vôtre et... Par voie de conséquence, vous êtes victime évidemment de la jalousie que vous suscitez chez ces gens qui n'ont pas du tout l'envergure et qui est la vôtre, et ils le savent parfaitement. Ils le savent, ils l'avouent d'ailleurs, puisque, en effet, vous êtes, d'abord vous travaillez, vous publiez, vous êtes lu par un public très large, qui dépasse très largement le public universitaire, mais vous êtes lu dans le milieu universitaire, vous êtes lu par les étudiants, vous servez de référence, et ça n'est pas tolérable pour eux. Vous représentez, en effet, quelque chose d'inassimilable et qui a fait basculer l'autorité, la fausse autorité sur laquelle ils s'étaient appuyés jusqu'à maintenant. Alors, ce sont des gens, ils le savent d'ailleurs quelque part, ils sentent très bien, ils sont au pouvoir, depuis longtemps, dans l'université et ailleurs. Mais ils sentent que ce pouvoir est fragile, parce que ce pouvoir s'appuie sur une très vieille interprétation de l'histoire et du monde qui est complètement dépassée et qui tous les jours d'ailleurs se voit pulvérisée par les faits et par les événements. Mais ils ne peuvent pas en sortir puisque c'est leur interprétation quasi religieuse. Ils ont une vision idéologique, donc religieuse des choses. Et c'est lié à leurs avantages, à leurs intérêts, à toute espèce de mafia auquel ils appartiennent et qui constitue un ensemble dont ils vivent. Leur esprit en vie et leur existence en profite, la position qui est la leur tire parti de tout cela. Et vous, à partir d'études spécifiques, vous démontrez l'inanité de ce sur quoi ils se sont établis. Et c'est pourquoi, évidemment, vous êtes infiniment dangereux, et c'est la raison de cette offensive, et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de vous apporter tout le soutien possible.
Oui, merci l'ami. Alors, je dois dire, j'ai fait, par voie de presse, par communiqué AFP, j'ai fait 4 jours de suite la proposition suivante. J'ai dit, écoutez, oublions les insultes que vous avez proférées et revenons à la raison scientifique, car vous prétendez universitaire, je suis universitaire. J'oublie les querelles, j'oublie les insultes, mais nous faisons un débat public. Vous êtes 55, je suis tout seul. Vous venez tous les 55 et je viendrai tout seul, uniquement avec mes livres. Choisissons un amphithéâtre, à la Sorbonne, n'importe où. Nous venons et nous débattons. Et chacun des 55 me fera les reproches scientifiques, me disant, voilà, cher collègue, ce que je vous reproche dans tel livre, telle ligne, etc. Je serai peut-être capable de répondre. Peut-être ne serai-je pas capable de répondre. Dans tous les cas, nous aurons fait avancer la science. Eh bien, ils refusent le dialogue. Ils refusent la discussion. Donc, ils m'ont diffamé. Ils m'ont calomnié. Ils ont demandé au ministre de faire casser ma promotion. Ils demandent ma mise à l'écart de l'université. Ils ont décidé de m'empêcher d'enseigner. Et ils refusent le dialogue. Nous sommes exactement dans une période de terrorisme intellectuel. Nous sommes dans une période de combat. Bon, ils sont très mal tombés avec moi. Bon, je ne suis pas du genre à céder. Mais ils seraient tombés sur quelqu'un d'autre. Ils auraient gagné. Moi, ils ne mourront pas, c'est évident. Celui qui mourra n'est pas né. J'ai résisté à pas mal de choses, et dans ma famille, nous avons résisté à beaucoup de choses depuis des siècles. Ce n'est pas maintenant. Nous avons résisté par les deux branches de ma famille, par la branche huguenote, qui n'a jamais plié pour les principes, qui a préféré partir aux galères plutôt que plier pour les principes, et par la branche catholique qui a lutté contre les colonnes infernales de la République et qui n'a pas cédé contre les autres principes. Alors ils sont mal tombés parce que par les deux côtés, je suis un irréductible. Alors, en avant. Mais il va falloir quand même que l'on m'aide.
Oui, mais vous avez commencé, vous avez déjà porté des coups remarquables, parce que j'ai lu la presse lyonnaise de ces jours derniers. Vous avez commencé par être attaqué de façon ignoble, la presse reprenant tout simplement, sans réfléchir, les accusations qui étaient portées contre vous par ces 54 ou 55 personnes. Ensuite, vous avez répondu. Et les réponses qui ont été les leurs, la réplique qui a été la vôtre, elle a été reprise par la presse. Et je constate que dans une partie, pas dans la totalité, il est évident, puisqu'il y a là des gens qui sont des adversaires idéologiques irréductibles et qui n'entendront jamais quelque argument que ce soit, mais par ailleurs, vous avez pu vous exprimer tout simplement parce que les arguments qui sont les vôtres ont porté. Alors, ça c'est une première victoire. Certes, vous avez en face de vous un poids gigantesque pour vous écraser. Et ces gens-là disposent de moyens, disposent du pouvoir, tout simplement. À Lyon, en France, au niveau de l'administration, du ministère, toutes les relations que l'on sait dans la presse et tout cela joue naturellement contre vous. Malgré cela, vous portez des coups. Malgré cela, ce que vous avez exprimé dans vos livres et dans le public qui était le vôtre, maintenant fait partie du débat public, entre dans le débat public. Pour cette raison-là, d'ailleurs, je pense qu'il sera quand même un peu plus difficile de vous écraser comme il le souhaiterait. Raison de plus pour vous apporter tout le soutien possible. Et parmi nos auditeurs, il y a certainement des universitaires, il y a certainement des enseignants dans tous les domaines. Je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent ce soir, à cet instant même, sur ce qu'il convient de faire, sur ce qu'ils doivent faire pour vous apporter, eux, leur soutien.
Tout à fait, parce que je vais devoir... Je fais un procès contre les 55 signataires calomniateurs. Il va falloir que je puisse également produire devant les juges des documents, qu'on ne dise pas vous avez le monde universitaire contre vous. Il faut que je puisse tout de même, je ne peux pas continuer à être un homme seul. J'ai également besoin que l'on fasse une grande publicité à cette affaire. Comment une publicité? Il faut écrire au courrier des lecteurs du Monde et du Figaro en disant il se passe un scandale, on cherche à assassiner un universitaire qui n'est pas politiquement correct, qui refuse de se plier à l'idéologie officielle. Comment pouvez-vous ne pas donner écho à cela? Il faut écrire au courrier des lecteurs. Il faut faire des tribunes dans le Figaro et dans le Monde. Il faut m'aider matériellement, c'est-à-dire donner le maximum de publicité à l'Afrique réelle. Et puis, il faut m'aider pour les procès. Moi, je ne peux pas assumer avec un traitement d'universitaire qui est un traitement qui n'est pas un traitement royal. Je parle là sans fausse honte. Je ne peux pas assumer.
Bien sûr, naturellement.
Bien. Alors, c'est clair.
Alors, il faut rappeler, je rappelle que demain soir, votre conférence à la salle de l'industrie à 8h30, donc, où vous présenterez votre vision du politiquement correct en matière d'histoire africaine.
Et tous ceux qui veulent apporter un soutien à Bernard Lugan, et qui se trouve dans la région parisienne, qui se trouve à Paris, peuvent venir demain soir, ont la possibilité de venir demain soir pour manifester leur solidarité, leur soutien.
Bien. Eh bien, écoutez, parfait. Des questions
Mais il y a beaucoup de messages qui demandent, dont vous venez de répondre, ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. Et puis, on vous dit, j'ai vu ce qui se passe. Donc, oui, ça, ça fait partie de l'aide. Ne serait-il pas possible, grâce à Radio Courtoisie, qu'un comité de soutien vienne à l'aide du professeur Lugan? Cette nouvelle est une preuve de plus que chaque jour qui vient, c'est un peu de notre liberté qui s'en va.
Oui, mais pour que ce comité de soutien ait un poids, il faut qu'il soit composé d'universitaires et d'enseignants.
Alors, je vous apporte mon total soutien.
Ou d'universitaires ou d'enseignants, ou d'africanistes. Mais malheureusement, ce n'aurait pas de poids si des gens fort sympathiques, n'ayant pas de compétences particulières en domaine africain, adhéraient à cela. Ce n'aurait pas de poids devant les tribunaux.
Je vous apporte mon total soutien face à la cabale marxiste contre vous. Je serai prêt à signer donc une pétition pour vous soutenir.
C'est plus qu'une cabale, c'est une tentative d'assassinat.
Ne pourriez-vous vous référer à la déclaration du Premier ministre qui a prôné la liberté totale d'expression à propos du livre de son attaché de cabinet?
Oui, j'ai
ceci
vu ça,
relève du droit absolu de chacun d'écrire, de penser et de publier.
Bien.
L'histoire du Maroc de Bernard Lugan est dans toutes les librairies du Maroc et il est de plus en plus apprécié.
Eh bien, je vous signale que mes détracteurs ont dit que cette histoire n'était pas scientifique. Ce qui est absolument aberrant.
Oui, ils peuvent dire n'importe quoi, d'ailleurs, ceux qui le font.
Contrairement à ce qu'on vous reproche, enfin, j'étais infirmière pharmacienne au Cameroun, je me suis aperçue au moment de l'indépendance qu'il y avait des oppositions tribales, alors que je ne connaissais rien à l'Afrique. Je reçois l'Afrique réelle depuis le premier numéro que je transmets régulièrement à un professeur d'université de la préfecture de Diabo, au Burkina Faso. Ce dernier me répond dans une lettre du 18 septembre dernier. Je vous remercie beaucoup pour les livres que vous m'envoyez. Avec l'Afrique réelle, j'ai enfin une connaissance beaucoup plus approfondie de mon continent. Georges Pompidou était pour Bhoutan et manœuvrait habilement contre les Sorbonnards, alors que Bernard Lugan ne risque pas, hélas, d'avoir le soutien de Chirac. Et puis moi aussi, je suis victime d'un assassinat scientifique depuis 68 et je conseille à Bernard Lugan de faire le plus vite possible le maximum de publications car tout sera mis en œuvre pour le...
Bien. Victoria, il y a trop de messages de sympathie.
Nous
allons arrêter là. En terminant, je donne l'adresse de l'Afrique réelle, tout simplement. Boîte postale numéro 603-140 Charou. Boîte postale numéro 603-140 Charou. Je précise également que tous les auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai fait un dossier de presse avec les principales coupures de presse pour bien montrer quelle était l'ampleur de cette tentative d'assassinat scientifique. Les auditeurs de Radio Courtoisie qui souhaiteraient le recevoir, à écrire à l'Afrique réelle en mettant un petit mot et je leur enverrai le dossier de presse. Que les abonnés ne le fassent pas et que toutes les personnes recevant habituellement les circulaires de l'Afrique réelle ne le fassent pas, car j'ai fait router plusieurs milliers d'enveloppes ces jours-ci et toutes les personnes qui sont abonnées à l'Afrique réelle ou qui reçoivent habituellement les circulaires de l'Afrique réelle patientes, en début de semaine prochaine, elles devraient recevoir le dossier que j'ai envoyé à tout le monde. Là, c'est pour les personnes qui ne reçoivent pas l'Afrique réelle et qui ne sont pas en contact avec l'Afrique réelle. Autrement, eh bien, pour les abonnements et pour tout le reste, les attestations autres, boîte postale numéro 6 03 140 à Charroux. Voilà, terminé.
Une auditrice vous demande si vous avez des soutiens parmi vos étudiants.
Oui, mais les pauvres étudiants, que voulez-vous qu'ils disent, ces pauvres étudiants? S'ils se font repérer, ils vont se faire saquer par les autres professeurs. On est obligé, lorsqu'il y a des oraux, lorsque je fais passer des oraux à l'université, et qu'il y a certains des professeurs qui mènent la guerre contre moi dans les mêmes salles, je dois ne pas sourire aux étudiants qui me sont sympathiques, je dois être sévère avec eux pour qu'ils aient la sympathie de mes collègues. Nous vivons dans un climat de guerre civile. Toute aide à l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6 03140 à Charles. Bien. De la publicité, bon, cela pour ne pas mettre le silence autour de cette affaire. Philippe Conrad.
Oui, ben, je crois que nous en avons terminé avec la première partie de cette émission et nous allons aborder dans un instant
question. Et nous allons surtout
de la mémoire de la guerre d'Algérie.
Et surtout, avant toute chose, faire une annonce excessivement importante que les auditeurs vont entendre à l'instant.
Le 7 novembre 1987, Radio Courtoisie diffusait sa première émission en direct. Depuis lors, chaque 7 novembre, nous fêtons ensemble la langue française. Mercredi 7 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez célébrer avec nous le 14e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous dînerons à la Maison de la Mutualité et au dessert, nous élirons le lauréat du prix d'Audet. Facilitez notre tâche en réservant dès maintenant 240 francs par couvert. Veuillez envoyer un chèque correspondant au nombre de couverts réservés à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci de joindre aussi une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Notez 240 francs par couvert à mercredi 7 novembre pour dîner ensemble et décerner le prix d'Audet 2001.
Oui, chers auditeurs, nous allons tous nous retrouver, bien sûr, pour le dîner de Radio Courtoisie. Nous y serons tous les trois, n'est-ce pas, Dominique Denner?
Parfaitement.
N'est-ce pas, Philippe Conrad?
Tout à fait. Oui.
Alors, ce sera le jour de notre émission mensuelle, et nous arriverons avec le gosier sec, après avoir parlé, et nous aurons besoin d'un premier coup pour chasser la poussière, et de plusieurs autres coups pour remettre d'aplomb le mécanisme. Alors donc, chers auditeurs, nous nous retrouvons, bien sûr, pour cette grande fête de Radio Courtoisie, et pour la remise du prix d'Audet, qui est toujours tout à fait extraordinaire, cette réunion, car c'est le moment de l'année où nous pouvons véritablement dialoguer avec les auditeurs. Parce que, bon, nous sommes à table, nous voyons, nous passons d'une table à l'autre, et les auditeurs peuvent vraiment venir discuter avec les responsables d'émission, avec les principaux intervenants, et c'est tout à fait sympathique, c'est toujours une fête très importante. Je précise que il faut être adhérent à Radio Courtoisie. Alors, dépêchez-vous d'adhérer à Radio Courtoisie pour pouvoir vous inscrire. Alors, vous téléphonez à Radio Courtoisie pour toutes les modalités d'inscription et nous rappellerons tout à l'heure cette fête importante, incontournable. Eh bien, chers auditeurs, venons-en maintenant au cœur du problème. Nous ne voulions pas du tout aborder cette première partie que nous avons abordée. Nous avions prévu une émission de 3 heures sur la guerre d'Algérie, mais il était important de parler de ce que nous venons de dire, parce que il était important de voir quelle est l'ampleur du terrorisme intellectuel dans notre malheureux pays. Ce terrorisme intellectuel, qui est en fait une conséquence d'événements qui se déroulent depuis des décennies, parce que l'entreprise générale de décérébration et de déstabilisation de nos élites et de nos intellectuels a commencé bien avant. Elle a commencé avec la guerre d'Indochine, elle a commencé avec la guerre d'Algérie, et aujourd'hui nous voyons bien avec les commémorations assez scandaleuses qui se produisent. Je voudrais signaler, peut-être Victoria, nous devrons lire le communiqué de nos amis qui ont manifesté aujourd'hui à Paris, le Crétin de Crétin de Solidarité. Je vous l'ai donné, ce communiqué, vous devez l'avoir. Nous le lirons tout à l'heure, oui, parce que certains ont sauvé l'honneur aujourd'hui et ils sont allés à Paris. Vous l'avez ici, Victoria?
Chrétienté solidaire.
Oui, oui. Vous le lisez? Nous le lirons.
Tout de suite ou tout à l'heure?
Oui, pour bien montrer le problème. Allez-y.
Chrétienté et Solidarité a participé aujourd'hui à la manifestation de protestation contre la pose par M. Delanoë d'une plaque à la mémoire des membres du FLN mis hors d'état de nuire par la police parisienne en 1961. Aux côtés des anciens combattants du CNC, des associations de Pieds Noirs et de Harkis, Chrétienté et Solidarité est venue avec sa banderole « Honte aux collabos du FLN » qui a déchaîné la haine des sympathisants FLN et de leurs habituels collabos de la gauche et de l'extrême-gauche parisienne qui, après une demi-heure de face-à-face, ont réussi à arracher notre banderole au cri de « Nous sommes les enfants du FLN ». Ils avaient auparavant hué la Marseillaise entonnée par les manifestants patriotes. Ces incidents se sont déroulés sous le regard impassible d'une police pourtant gravement insultée aujourd'hui. Ce n'est que grâce au courage de nos jeunes militants qui ont énergiquement repoussé les gauchistes que les manifestants harkis et anciens combattants n'ont pas été blessés et écrasés contre les barrières par les nervis gauchistes. Chrétienté et Solidarité dénonce ces violences perpétrées par des ennemis de la France, ce qui ne les empêche pas d'y résider, et proteste fermement contre l'acte de collaboration et de trahison du maire de Paris.
Voilà, il était bon de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont sauvé l'honneur et qui étaient sur place dans le silence médiatique. Alors, nos invités, pour parler de cela aujourd'hui, le général Fèvre, et le commandant Muel. Alors, mon général, vous êtes cavalier. Vous avez servi au 1er régiment étranger de cavalerie. Vous avez été chargé d'une SAS en Algérie. Vous avez commandé en second le 1er RHP. Vous avez ensuite commandé une unité qui est chère au cœur de notre cher Philippe Conrad, c'est-à-dire le 13e régiment de dragons parachutistes. Je crois que vous étiez le chef de corps de notre ami Philippe.
Dans toutes les radios ont parlé ces derniers temps. Au désespoir du chef de corps qui dit jamais, on m'a obligé à présenter ces émissions.
Vous participez au séminaire de l'amiral Lacoste, etc., etc. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la guerre populaire, aux harkis, et vous venez de publier tout récemment, édition de l'Harmattan, les archives inédites de la politique algérienne. Ah bon, mon commandant, on ne vous présente pas à Radio Courtoisie. Vous êtes une grande figure de Radio Courtoisie parce que vous êtes très souvent chez notre ami avec un grand respect, le commandant Guillaume, et vous avez une vie extraordinaire, disons-le.
Le fait que je sois un vieil ami de Guillaume tient au fait que nous sommes croisés en Indochine, que nous avons partagé l'hospitalité républicaine à Fresnes à une certaine époque, et que nous avons toujours eu des sympathies malpensantes à l'égard du système qui nous commandait. Alors je viens volontiers chez lui parce que j'avoue que pour moi c'est une satisfaction de pouvoir dire ce que je pense et vider ma bile.
Voilà, mais mon commandant, vous avez des états de service qui sont impressionnants. Vous êtes ancien des GCMA, donc des groupes de commandos mixtes aéroportés, l'Indochine. Vous êtes un ancien du 11e choc. Vous étiez au service action du SDEC. Vous avez eu la grande élégance de quitter l'armée. À un certain moment.
On m'a un peu poussé dehors.
Et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, notamment l'ouvrage sur le Bilhomme et les livres que vous avez consacrés à la guerre contre le FLN en France. Alors, nous, avec vous deux, mon général, mon commandant, nous allons aborder le cœur du problème. Philippe, entrons dans le vif du sujet sur le contexte général de la guerre d'Algérie. Comment situer ces événements dans ce contexte historique?
Oui, à destination surtout de nos plus jeunes auditeurs pour qui ces événements ne sont pas familiers. Donc nous allons commencer par une espèce de présentation rapide du cadre général, du cadre historique général. La guerre d'Algérie, donc 1954-1962, dans un contexte qui est celui de la décolonisation commencée en Asie, continuée avec les deux protectorats tunisiens et marocains. On sait que le cas d'Algérie est évidemment différent. Territoire français depuis beaucoup plus longtemps que les protectorats. Département français, plus anciennement rattaché à la France que la Savoie et Nice. 8,5 millions d'indigènes musulmans, plus d'1 million d'Européens qui vivent là, donc une situation tout à fait particulière. Et au début d'ailleurs de la guerre, les pouvoirs publics français n'entendent absolument pas remettre en cause le caractère français de l'Algérie. Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui sont au pouvoir en 1954, l'affirment haut et clair. Cela dit, le problème couvait depuis longtemps. Il y avait un nationalisme algérien qui avait commencé à se cristalliser dans les années 1930, autour soit de mouvements islamistes comme le mouvement des oulémas, soit autour de mouvements assez proches du parti communiste comme celui de Messaliadj. Les émeutes de Sétif de 1945, avec la répression qui les avait suivies, avaient évidemment creusé un fossé entre les communautés, tout du moins dans certaines régions, notamment du Constantinois. Et en 1954, donc, c'est le début de l'insurrection. Une insurrection d'abord disposant de moyens assez faibles, assez limités. Quelques attentats, dont certains particulièrement spectaculaires et criminels, comme celui qui coûte la vie à l'instituteur Monroe dans les Aurès, près d'Arris, le 1er novembre 54, le jour de la Toussaint Rouge. Puis ensuite, pendant plusieurs mois, une activité de la rébellion d'une intensité limitée, des bandes au maximum, comptant au maximum quelques milliers d'éléments, généralement mal armés. Tout change à partir de l'été 55 et les horribles massacres perpétrés dans le Constantinois, du côté de Philippeville, à El Alia. À partir de ce moment, là encore, le fossé va se creuser davantage entre les deux communautés du fait de la répression qui suit ces massacres, et on va avoir une montée en puissance de la guerre au cours des mois suivants, ce qui va amener Guy Mollet, arrivé au pouvoir à la suite de la victoire du Front Républicain en janvier 56, à décider l'envoi du contingent en Algérie, ce qui va donner évidemment à ce conflit une dimension toute nouvelle. La guerre va continuer à se développer au cours des mois suivants. Pour le FLN, le congrès de la Souma marque à l'été 56 un moment évidemment tournant, puisque c'est à la suite de celui-ci qu'il va déclencher notamment la bataille d'Alger, le terrorisme urbain qui sera finalement jugulé par l'intervention de la 10e division parachutiste. En parallèle, pendant ces années 57-58 qui suivent, le FLN, à partir de ses bases en Tunisie, va tenter à plusieurs reprises de forcer le barrage, la ligne Morhis installée sur la frontière tunisienne. À chaque fois, ces tentatives seront brisées, donc au cours des années 57-58. Là-dessus, la guerre d'Algérie va prendre une dimension toute nouvelle et plus politique et va concerner encore plus directement la vie intérieure de la métropole avec l'action du 13 mai 58 qui entraîne le retour du général de Gaulle au pouvoir avec ensuite toutes les ambiguïtés que l'on sait dans son discours relatif à l'Algérie. En parallèle, les militaires font leur travail. Le plan Charles permet d'en finir en l'espace d'un an et demi à peu près avec le FLN sur le plan militaire. Mais cette victoire militaire, elle ne peut pas suffire à donner la victoire complète. La France se retrouve relativement isolée sur le plan international. Cette victoire militaire peut s'avérer dans la durée fragile, dans une Algérie où la démographie musulmane explose. Et tout cela conduit finalement le général de Gaulle à l'abandon que l'on sait, dans les conditions assez lamentables que l'on sait, puisqu'il va accepter la négociation avec le FLN, qui va aboutir donc aux accords d'Évian du 18 mars 1962, qui entraîne le cessez-le-feu qui commence le lendemain. Les derniers mois de cette guerre d'Algérie, c'est aussi, dans une certaine mesure, une guerre franco-française, puisque les Français d'Algérie, une partie de l'armée fidèle au serment prêté, vont tenter de continuer la lutte, une lutte en fait désespérée, une lutte jusqu'au boutiste, jusqu'à l'été 62, et le 1er juillet 62, l'Algérie sera indépendante, et cette indépendance va correspondre au départ d'un million d'Européens vers la métropole, mais aussi au massacre des Harkis. Oui, alors cette guerre d'Algérie donc commence avec la fameuse Toussaint Rouge, la sinistre Toussaint Rouge du 1er novembre 1954. Je le disais il y a un instant, pendant plusieurs mois, il s'agit d'affrontements, de combats d'intensité limitée, mais cette guerre d'Algérie des premiers mois, en quelque sorte, finalement, est assez mal connue, et elle n'a pas concerné surtout les jeunes gens du contingent qui arrivent en masse à partir de 1956. Et nous avons la chance ce soir d'avoir un témoin, puisque Dominique Vénère, jeune engagé volontaire en 1954, a été de ceux qui ont participé à cette première guerre d'Algérie, justement, entre 1954 et 1956. Et nous allons lui demander de nous apporter son témoignage sur ce qu'étaient les conditions de cette lutte et le souvenir qu'il en a conservé.
Oui, il y a des souvenirs qui restent assez précis. Mais je voudrais tout de suite apporter une précision par rapport à l'ensemble de ce qu'est l'interprétation de la guerre d'Algérie. Je crois qu'il est tout à fait essentiel de dissocier l'aspect politique de la guerre d'Algérie de l'aspect militaire. Les accusations qui sont portées aujourd'hui contre des soldats, contre l'armée d'Algérie, ces accusations portent sur des exécutants qui obéissaient à des ordres politiques. Ce ne sont pas les militaires, qu'ils soient généraux ou deuxième classe, qui ont décidé de la guerre d'Algérie. Ce ne sont pas eux qui ont décidé de ce que serait la conduite de cette guerre. Cette guerre n'a pas été décidée par la France. La France s'est trouvée face à une situation insurrectionnelle, comme vous le rappeliez tout à l'heure, avec sur place la présence d'une population européenne très importante et une population musulmane dont une part non négligeable prenait fait et cause pour la France. Et les autorités politiques françaises ont, au fil des années, ce que vous rappeliez tout à l'heure, ont adopté un certain nombre de politiques, plusieurs politiques, qui ont évolué dans le temps. Les soldats, les militaires, eux, obéissaient. Et on ne peut pas reprocher à des militaires d'avoir obéi aux ordres, aux instructions, aux orientations qui étaient fixées par le pouvoir politique. S'il y a lieu de porter des accusations, les accusations doivent être portées éventuellement contre le pouvoir politique. Et elles ne peuvent en aucune façon être portées contre les soldats qui, encore une fois, exécutaient des ordres dans un contexte difficile. Par ailleurs, les soldats de tout grade et de tout niveau n'avaient pas nécessairement une vision d'ensemble de la situation. Alors là, je vais évoquer l'état d'esprit qui était le mien en 1954. J'avais 19 ans, je me trouvais à la frontière algéro-tunisienne, dans l'est constantinois, au moment où l'insurrection a commencé. Nous étions sous la tente, nous étions une compagnie d'un bataillon de chasseurs, sous la tente, en plein bled, et jusque-là nous savions qu'il y avait une certaine tension. Initialement, nous aurions dû être envoyés en Tunisie, et nous n'avons pas été envoyés en Tunisie, nous avons été maintenus en Algérie. Nous avions un matériel qui était des plus restreints. À la veille de la Toussaint Rouge 1954, on avait tout juste commencé à faire de microscopiques distributions de munitions, puisqu'il y avait, pour les hommes qui étaient armés de fusils, le bon vieux MAS 36, on leur avait remis un paquet de cartouches. Et pour ceux qui avaient un pistolet mitrailleur MAS 49, on leur avait remis également un paquet de cartouches. Il y avait de quoi remplir un chargeur, mais pas tout à fait. Point à la ligne. Voilà avec quoi nous avons commencé cette guerre. Et tout était à l'avenant. Les premières opérations que nous avons menées, soit à la frontière tunisienne, soit dans la région de Tébessa, puisque c'est dans ces secteurs-là que nous intervenions, sur des renseignements plus ou moins vaseux, et en essayant de mettre la main sur de microscopiques bandes, puisque à l'époque il y avait bien peu de choses. Il y avait surtout des infiltrations qui venaient de Tunisie, et nous avions comme mission en principe d'essayer de coxer les gens qui venaient de Tunisie et qui s'infiltraient en Algérie. Pour cela, encore une fois, nous avions à la fois très peu de renseignements et nous avions très peu de moyens. Les véhicules qui étaient à notre disposition, je pense que c'était des GMC et des Dodge américains, qui vraisemblablement avaient dû faire le débarquement de 1944, et d'une façon générale, il fallait en prendre trois pour essayer d'en remonter un qui puisse fonctionner à peu près. Je me souviens, c'est tout à fait caractéristique, un jour d'une opération dans la région de Tébessa, nous étions en pleine, dans une région qui est très montagneuse, et nous passions dans des espèces de pistes qui étaient à flanc de coteau, et nous avions toutes les chances de nous casser la gueule, pardon, et j'étais à côté de mon chauffeur de GMC, et il me disait, il faut absolument maintenir votre pied là sur la pédale de je ne sais quoi, le crabeau, etc. Sinon, on part dans les décors. Voilà. C'était le genre de matériel qui était à notre disposition. C'était, pendant les premiers mois, une sorte de petite guerre moyenâgeuse, qui avait son charme d'ailleurs. Ceux d'en face était équipé à peu près comme nous-mêmes. Ce que nous avions n'était pas tellement supérieur à leurs instruments, à leurs armes, à leurs équipements. Nous étions à peu près armes égales. Eux connaissaient le terrain, nous, nous le connaissions pas, ou beaucoup moins, et nous apprenions à le connaître, nous découvrions. Nous étions moins entraînés au début, et à force de marcher, eh bien, nous avions acquis des mollets et des jarrets un peu plus nerveux, donc nous étions capables de leur courir derrière. Nous avons commencé à tirer les premiers coups de feu, les premiers coups de fusil et les premier coup de fusil mitrailleur, pas immédiatement. Ce n'est que dans les premières semaines ou dans les premiers coups de feu véritables que j'ai entendus, c'est dans le premier mois qui ont suivi l'insurrection. Pas immédiatement. Au début, il ne se passait pas grand-chose. En revanche, ce dont j'ai le souvenir, très tôt, c'est la découverte, un matin, d'une ferme qui, dans notre région, la région de Clairefontaine, avait été attaquée dans la nuit. Et là, nous, pauvres petits soldats français, nous avons découvert une certaine réalité de la guerre. Dans cette ferme, il y avait une toute petite famille, un homme, une femme et un enfant. Et tous les trois avaient été égorgés dans la nuit. Et dans les conditions atroce que je ne vais pas rapporter ici à l'antenne. Mais pour moi et pour tous ceux qui voyaient cela pour la première fois, c'est un souvenir qui n'a jamais été effacé, je puis le dire. Et l'idée que nous nous faisions de nos adversaires, ce jour-là, s'est trouvée transformée. Nous savions que nous n'avions pas en face de nous des chevaliers, mais que nous avions en face de nous des gens qui étaient prêts à tout, puisqu'ils étaient prêts à égorger dans des conditions atroces cette femme et l'enfant que nous avions découvert, ouvert comme un lapin, atroce. L'idée de cette guerre s'est trouvée là changée. Et il est certain que notre façon d'agir par la suite s'est trouvé coloré par ce souvenir et par tous ceux que nous avons pu par tout ce que nous avons pu découvrir ensuite. Quel était notre état d'esprit? Bien, mon état d'esprit, parce que l'état d'esprit des autres, nous parlions. Mon état d'esprit à moi, tout jeune, je ne connaissais rien à la politique. Je n'avais aucune idée de ce qu'était. Je n'avais aucune idée des enjeux. J'avais simplement une préscience à l'âge qui était le mien, etc. J'avais le souvenir, tout simplement, de mon pays qui avait été vaincu dans une guerre précédente, qui avait pris une revanche, oui, mais enfin, c'est surtout les Américains, les Anglais et d'autres qui avaient pris la revanche. Nous, à part des combattants qui, eux, à titre personnel, dans leurs unités, avaient pris leur revanche incontestable. Le pays lui-même avait-il pris la revanche? Je n'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, je n'en étais pas sûr du tout à l'époque. Et puisque le hasard faisait que, à une vingtaine d'années, je me trouvais avec une arme à la main, engagé dans une guerre à laquelle je ne comprenais rien, j'avais en tout cas le désir, c'est de ne pas être vaincu. Et je voulais, à ma façon, prendre ma revanche sur le destin, et sur le destin noir qui avait été celui de mon pays et des générations précédentes. Et cela aussi a coloré tout mon engagement et tout ce que j'ai fait par la suite. Après, j'ai découvert des choses. Après, j'ai compris des choses, petit à petit. Mais au début, telle était ma façon de voir, très simple. Et finalement, je me dis que ce n'était pas une si mauvaise façon que cela. Bref. L'idée que nous nous faisions de la guerre était fruste, très limitée. Les instruments que nous avions pour la mener étaient également frustes et très limités. Et ce n'est qu'après les premiers mois, ce n'est qu'au cours de l'année 1955, et surtout 1956, que oui, là, on a connu de grands changements progressifs, tout à la fois les effectifs qui arrivaient, du matériel qui arrivait. La différence était gigantesque. Cela dit, même en 1956, moi je suis parti à la fin de 1956, à l'automne 1956, les opérations que nous menions, les moyens que nous menions restaient encore extrêmement sommaires et nous étions toujours dans l'univers de cette guerre un peu médiévale que j'évoquais tout à l'heure. Nous n'étions pas du tout dans un univers de guerre moderne. Nos moyens radio ne fonctionnaient pas. Je me souviens de ces sacrés SCR 536 qui portaient, quand nous avions beaucoup de chance, à 500 mètres quand le terrain le permettait, ou bien les SCR 300 qui pesaient un poids énorme sur les épaules du porteur et qui ne marchaient jamais parce que les piles étaient usées, elles étaient vieilles. Le terrain était ainsi fait que on ne transmettait pas d'une vallée à une autre. Cela pour dire que les moyens mis à la disposition de la première armée française du début de la guerre d'Algérie étaient extrêmement minces.
Donc, merci beaucoup, Dominique, de ce témoignage. Donc, des débuts du conflit extrêmement artisanaux, il prend une dimension nouvelle, je le disais tout à l'heure, à l'été 55, avec les massacres du Constantinois, et avec aussi la reconnaissance internationale dont le FLN commence à bénéficier, surtout ensuite après l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui deviennent définitives en 1956. L'un des épisodes majeurs de cette guerre d'Algérie, qui va intervenir à partir de l'été 1956, et dont il faut absolument que nous parlions ce soir, évidemment, c'est la bataille d'Alger. Alors pourquoi parler de la bataille d'Alger ? Parce que depuis un certain nombre de mois, il y a toute une entreprise, ou tout à fait analogue à ce que nous avons évoqué tout à l'heure à propos de l'Afrique noire et de la colonisation, il y a toute une entreprise de culpabilisation qui est en cours. Alors on nous ressort évidemment la bataille d'Alger avec l'inévitable torture, on nous ressort maintenant depuis quelques jours là, les viols systématiques dont les Algériennes auraient été victimes.
Ah oui, ça, c'est une nouveauté.
De la
alors.
Part des soldats
ça, on
français.
L'avait, ça, ce coup-là, on ne l'avait pas encore fait.
Également,
je vais répondre une petite
une
chose.
Une sainte colère doit s'exprimer.
Là, je vais répondre quand même une petite chose à ce sujet-là. Oui, alors, c'est Le Monde qui nous a sorti ça le vendredi 12 octobre, c'est pas vieux.
Voilà,
là,
c'est intéressant. Hein. Ouais.
Alors, ça, on savait pas jusque-là. Hein. Alors, tout d'un coup, on a appris que l'armée française avait, parmi ses activités principales en Algérie, c'était de violer les femmes musulmanes.
Donc, comme l'armée serbe de Milosevic.
Ah, voilà.
Presque. C'était épouvantable.
C'est ça. Alors, voilà le titre de l'article. Le tabou des femmes violées pendant la guerre d'Algérie commence à être levé. Alors, ça continue, il y en a comme ça une page, hein, entière. Alors, croyez-moi, c'est pas fini, on va y avoir droit maintenant, pendant longtemps.
Et... Les enfants nés du viol.
Ça a commencé.
Il y en a un grand
vous savez que l'Algérie, je vais faire une remarque un peu ironique. Vous savez que l'Algérie de 54 à 62 a augmenté de 3 millions d'habitants. Alors ces 3 millions d'enfants qui sont nés, ce sont des enfants de Français, vous vous rendez compte? Puisque toutes les femmes ont été violées par l'armée.
Oui, certainement.
Belle santé.
Certainement. Quand j'ai lu cet article du Monde, cette page du Monde, j'ai pensé d'abord que c'était une blague. C'est parce qu'en ce moment, il y a plein de romans qui sont publiés sur thèmes un petit peu pornographiques qui plaisent beaucoup. Baise-moi, le slip, la vie sexuelle de quatrième, etc. Oui, oui. Je me suis dit, voilà, ça doit être une transposition. Ça les a amusés au Monde. Il faut dire qu'ils s'amusent pas toujours, hein, parce que c'est un journal assez gris. Donc là, c'était l'occasion sans doute de s'amuser. Eh bien non, c'était pas pour s'amuser. C'était vraiment de leur part, apparemment, quelque chose de sérieux.
Il y a toute une partie dans la thèse de Raphaël Branche sur la torture en Algérie qui concerne les viols. Hein, oui. Il y a des phrases étonnantes dans la thèse de Branche. Elle dit par exemple, le viol, ça consiste à mettre la France dans le corps des femmes. Vous voyez, c'est une...
Ça consiste à mettre quoi?
La France dans le corps des femmes.
Mettre la France
oui,
dans le corps
oui,
des femmes.
Oui, oui.
Et sous mon pantalon garant se bat le cœur. Non, j'ai
voilà,
pas la.
Voilà, voilà.
Bien. Oui, alors donc, on a eu récemment les viols, on a eu la torture pendant la bataille d'Alger, et évidemment, nous sommes le 17 octobre aujourd'hui, nous avons évoqué tout à l'heure la mise en place de cette fameuse plaque commémorative, la répression des émeutes FLN qui ont eu lieu à ce moment-là. Alors, il y a là, à l'évidence, une entreprise globale qui dure depuis plusieurs mois, dans laquelle le journal Le Monde, d'ailleurs, joue un rôle considérable, sous la haute autorité intellectuelle et morale, se plaît-il à dire, de Pierre Vidal-Naquet, dont on sait les sympathies qu'il portait vers le FLN il y a 40 ans. Bien, il faut évidemment démonter également tout cet ensemble de légendes, toutes ces idées reçues qui sont accumulées à propos de la guerre d'Algérie. Alors, nous allons essayer de le faire ce soir, et d'abord avec la bataille d'Alger, et ensuite, eh bien, nous aborderons en particulier ce qui s'est passé en métropole, et là, nous aurons un expert en la matière, en la personne du commandant Muel, qui vient de publier
un livre tout à fait intéressant, 7 ans de guerre en France, du commandant Raymond Muel, 7 ans de guerre en France, quand le FLN frappait en métropole. 7 ans de guerre en France, quand le FLN frappait en métropole, aux éditions du Trésor. Et au prix de, je ne vois pas le prix, mon commandant, enfin bon.
140.
Bon.
C'est une réédition d'un livre qui s'intitule La guerre d'Algérie en France, paru aux Presses de la Cité il y a 5 ou 6 ans. Mais les Presses de la Cité n'ont pas voulu le rééditer parce que le livre n'était pas politiquement correct.
Ouais. Nous retournons toujours dans le...
Alors, nous n'allons pas être ce soir justement très politiquement correct. Et nous allons d'abord aborder donc la bataille d'Alger. Je rappellerai très rapidement en quelques minutes le contexte général avant de passer la parole au général Fèvre qui a bien étudié cette question et notamment toute la campagne déclenchée depuis plusieurs mois, notamment les déclarations de la fameuse Louisette et Villegaris violée en personne ou torturée en personne par Bijard.
Qui n'était pas là.
Nous allons évoquer tout cela.
Tous les matins quand même.
Alors la bataille d'Alger, en quelques mots, en 1956, en août 56, c'est le congrès FLN de la Soumam, et le FLN décide de lancer le terrorisme urbain, de porter la guerre dans les villes qui jusque-là avaient été quand même largement épargnées. Hein. Et cela commence donc à l'automne 56, cette bataille va se prolonger jusqu'à l'automne 57, pendant près d'un an. Comme les forces de police, normales, ne paraissent pas en mesure de venir à bout des actions terroristes, les bombes commencent à éclater dans Alger, à faire de nombreuses victimes, européennes mais aussi musulmanes. Et bien entendu, c'est un terrorisme largement aveugle. On a en mémoire les attentats du Milk Bar, les attentats de l'automatique, les attentats
du canyon de la Corniche
plus tard, les attentats des dits des lampadaires, etc. Des attentats extrêmement dangereux au deuxième degré, parce qu'évidemment, ils suscitent une colère des Européens qui souvent débordent et qui entraîne des représailles aveugles sur les musulmans, ce qui contribue à creuser encore davantage le fossé entre les deux communautés, ce que vise évidemment le FLN, au même titre qu'il l'a fait lors des massacres du Constantinois en 1955. Alors, pour venir à bout de ces batailles d'Alger, Robert Lacoste, socialiste, faut-il le rappeler, nous sommes à l'époque du Armand Guimolet, va confier les pleins pouvoirs à la 10e division parachutiste du général Massu, en lui demandant de rétablir l'ordre, de briser le terrorisme, ce qui sera obtenu avec l'arrestation de Ben Midi, avec l'arrestation finalement de Yassef Saadi et l'élimination d'Ali Lapointe. Alors cette bataille d'Alger, effectivement, pour la gagner, il a fallu avoir du renseignement, et là se pose la question de la torture, qui est un des chevaux de bataille principaux, évidemment, de tous les tenants de la culpabilisation. Alors, mon général, je voudrais avoir votre sentiment sur cette question.
Je pense qu'il faut bien se replacer dans le contexte, et je vais poursuivre un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Dominique Venner en disant que le FLN s'est imposé peu à peu par la terreur. Et il s'est imposé par la terreur d'abord contre les musulmans. Il faut, si on reprend les statistiques, elles sont très claires, on passe de 55 à 56 de 100 musulmans égorgés par jour dans l'Algérie à 300 égorgés par jour dans toute l'Algérie. Et ceci, ça concerne en particulier des villages qui s'étaient ralliés à l'armée française, comme le village de Yundagen qui a été massacré par Amirouche. Les mutilations faciales qui sont exercées, des centaines de mutilations faciales, on coupe le nez, on coupe les lèvres et on coupe les oreilles des gens qui fument ou qui boivent, hein, c'est effarant. Le massacre de Melouza, où il y a au moins 300 habitants du village qui sont éliminés par un nommé Mohamedi Saïd, hein, qui était d'ailleurs un ancien SS. Hein, et au total, donc, ce massacre des musulmans qui va concerner au cours de la guerre d'Algérie, environ 16 000 musulmans massacrés par le FLN ou par le MNA, parce qu'il y a des luttes intérieures. Mais à partir d'un certain moment, cette terreur va s'exercer contre les Européens. Et le mot d'ordre du FLN est le suivant: tuer un Européen, n'importe quel Européen, pourvu que ce soit un Européen. Et ceci, l'exemple est donné, comme on l'a dit tout à l'heure, le 20 août 55, par Ziroud Youssef, qui fait attaquer une vingtaine de villages dans le Constantinois, dans des conditions horribles. Je crois qu'il faut le dire, il faut dire ce qui s'est passé. Je vais vous citer ce qui s'est passé à Ain Abid, un petit village près de Constantine. Une petite fille de 5 jours, Bernadette Mello, fut tronçonnée sur le rebord de la baignoire devant sa mère, dont on ouvrit ensuite le ventre pour remplacer le nouveau-né. Sous le même toit, le père Faustin Mello est assassiné dans son lit, amputé à l'âge des bras et des jambes, et la tuerie n'épargne ni Marie-Josée, une fillette de 11 ans, ni la grand-mère de 76 ans. Alors vous comprenez que cette situation horrible entraîne une réaction de l'armée et de la police. Alors bon, il y a eu une répression assez sévère à la suite de ces incidents du 20 août. Les statistiques donnent 1200 morts du côté des musulmans. Le FLN, bien sûr, qui a l'habitude de multiplier par 10 tout le chiffre des pertes, parle de 12 000. Enfin, je pense qu'avec 1200, qui est le chiffre retenu en particulier par le colonel Jeune, on est plus près de la réalité. Donc, je vous le dis, donc, à partir de ce moment-là, la terreur prend un caractère raciste. On s'attaque aux Européens. Et si je reprends les statistiques, on constate également que de 55 à 56, on passe de 10 Européens tués par mois à 40 tués par mois. Et en 57, on monte à 50 Européens tués chaque mois. Alors ceci, comment ça se fait? Eh bien, par des attentats, à l'arme blanche, ou des égorgés tout simplement, ou par les bombes qui sont déposées dans des lieux publics. Et il faut se rappeler que ces bombes sont fabriquées par des artificiers communistes européens, parce que le FLN, les musulmans, ne savent pas fabriquer des bombes. Donc on connaît tous les nombres, je ne vais pas y revenir, mais enfin, c'est donc le début janvier, le 8 janvier, que le décret est pris de confier les pouvoirs de police à Massu, à la 20e DP, et on met sous les ordres de Massu, d'ailleurs, c'est assez drôle, Monsieur Paul Tedjen, qui était l'adjoint du département d'Alger, chargé de la sécurité. Et Monsieur Paul Tedjen avait été dans l'incapacité totale de rétablir la paix dans la ville d'Alger au cours de l'année précédente. Alors, comment va se passer...
Mon général, je vais vous demander, nous sommes au moment de la coupure technique de 7h30. D'accord. Nous faisons une toute petite coupure et nous reprenons votre exposé sur la bataille d'Alger, qui va être peut-être le point de départ de la discussion entre vous et le commandant Muel.
D'accord.
Donc, je propose aux auditeurs une petite coupure technique que nous allons suivre pendant quelques secondes. À tout de suite, chers auditeurs.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 octobre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Et nous avons comme invité Philippe Conrad et Dominique Vénère, nous avons comme invité le général Fèvre et le commandant Muel. Mon général, au moment de la coupure de 7h30, vous abordiez le problème de la victoire de la bataille d'Alger, car nous voudrions savoir comment l'armée française a-t-elle réussi à remporter la victoire d'Alger.
Il y a eu deux phases dans cette bataille d'Alger. Il y a eu une phase menée d'abord par toute la division, c'est-à-dire essentiellement quatre régiments parachutistes, le 1er REP, le 3e RPC de Bijard, le 2e RPC de Château-Jaubert, puis Fossé-François, et le 1er RCP du colonel Meyer. Chacun de ces régiments a reçu la responsabilité d'une zone de ce qu'on appelait le Grand Alger, un secteur dans lequel ils avaient la mission de rechercher les collecteurs de fonds et tous les soutiens du FLN. Ça ressort de l'ordre du jour diffusé par le général Massu au début de cette action. Il s'agit, dans une course de vitesse avec le FLN, appuyé par le Parti communiste, de le stopper dans son effort d'organisation de la population en repérant et détruisant ses chefs, ses cellules et ses hommes de main. Ainsi pourrez-vous faire reculer l'ennemi, défendre et vous attacher la population, objectif commun des adversaires de cette guerre révolutionnaire. Donc cette première phase n'a pas duré très longtemps, parce que dès le 25 février, la plupart des régiments quittaient Alger. Il ne restait plus qu'un régiment. Le 25 mars. Et au début, le 1er janvier, au moment où la 20e DP s'installe à Alger, le 3e RPC de Bijard est encore en mer. Il vient de faire l'expédition de Suez et il n'a pas encore rejoint. Donc, vous voyez, c'est une période très courte. Il est certain que c'est dans cette période qu'ont été employés des moyens de coercition assez durs vis-à-vis des collecteurs du FLN, et qui ont permis d'ailleurs de remonter très rapidement les réseaux et de démanteler à peu près complètement les cellules terroristes qui étaient implantées à Alger. Voilà le bilan du premier trimestre. Arrestation, 267 chefs de cellules, 235 tueurs, 322 collecteurs de fonds, 985 propagandistes. armement récupéré, 812 armes de guerre, 88 bombes qui auraient fait des centaines de victimes, puisque une bombe c'était au moins 10 morts et 50 blessés, et 200 kilos d'explosifs. Et tout ce bilan s'est traduit du côté ami par des pertes légères, puisqu'il y a eu 2 tués, dont le lieutenant Guillaume, qui est le frère, je pense, du commandant qui participe à ces émissions. Donc vous voyez que cette guerre a été assez rapidement gagnée en démantelant les réseaux terroristes. Mais on n'avait pas réussi à atteindre les chefs de Yassef Saadi, les commissaires politiques, un certain nombre de responsables, et Ali Lapointe, qui étaient les commanditaires, les responsables de le faire. Donc, cette deuxième période va commencer avec un seul régiment. Mais un seul régiment, il y aura des relèves, hein, les régiments vont se succéder les uns après les autres, mais l'action va être une action d'infiltration. Et cette action d'infiltration, elle va être réalisée par le colonel Godard, par le colonel Trinquet, par le capitaine Léger, qui vont s'introduire dans la Casbah, c'est ce qu'on a appelé les bleus, et ils vont prendre en main la Casbah et ils vont se superposer peu à peu à la structure du FLN, et ils vont prendre en main la structure même du FLN, ils vont se faire passer pour les chefs du FLN, et ce qui va permettre en quelques mois d'arrêter Yassef Saadi, d'éliminer Ali Lapointe qui se fait sauter dans sa cache, et puis le 23 septembre, le responsable de la propagande, Ben Hamida, qui reconnaît d'ailleurs que le colonel Godard a été tout à fait correct et a employé des moyens humains pour venir à bout de cette rébellion.
On peut donc dire que la bataille d'Alger est gagnée à quelle date ?
Eh bien, la première phase est gagnée vers le 25 mars, et la deuxième, parce que en juin, il y aura quelques bombes qui vont être de nouveau manipulées, en particulier dans les lampadaires et dans les stades, et donc il faut penser que début octobre, il n'y a plus de terroristes à Alger.
Mais à la suite de cette guerre secrète qui se mène à Alger, nous voyons d'autres opérations, mon commandant, qui se déroulent un peu partout, notamment l'affaire de Latos, l'affaire Sissala.
Pour jouer le prolongement de l'affaire d'Alger proprement dit, non seulement le capitaine Léger avait réussi à pénétrer l'adversaire, c'est qu'il se faisait livrer les armes pour les terroristes d'Alger, c'est lui qui les recevait. Et dans un deuxième temps, il a réussi à semer une telle perturbation dans les vilayas que il a intoxiqué les vilayas à tel point qu'on pense que 3000 fellouses ont été tués par leur propre patron sous prétexte de trahison. Mirouche en particulier, la vilaya 3 et la vilaya 4 se sont particulièrement distingués dans cette affaire. Mais effectivement, pendant cette période-là, d'autres actions ont été menées. Par exemple, par le service action, à partir des bateaux des trafiquants d'armes.
Et cette opération, pouvez-vous nous parler de l'opération de contre la Tosse, par exemple, sa symbolique?
Je pense que ce n'est pas la plus symbolique, parce que la Tosse a été tout bonnement arrêtée sur renseignement, on l'a amené à Alger et on l'a déchargé. Mais il y a des opérations qui ont été beaucoup plus pointues, par exemple des bateaux qui ont sauté en mer, qui ont coulé avec leur chargement, dans un certain nombre de cas. Et on en était arrivé à cette expérience, c'est que les bateaux ne sortaient pas dans les ports, parce que dans les ports on peut toujours trouver des traces, les bateaux sautaient en mer suffisamment progressivement pour qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine, mais le chargement disparaissait. Mais en même temps, on s'est attelé à la disparition des trafiquants d'armes même. Les trafiquants d'armes qui étaient en Suisse, en Allemagne ou en Italie recevaient d'abord, c'était signé main rouge, un avertissement en disant changez de métier, sinon il va vous arriver des bricoles. Et effectivement, comme ils ne changeaient pas de métier, c'était trop intéressant et trop juteux, il leur arrivait des bricoles, effectivement, une bombe sous la voiture ou comme pour Léopold, un assassinat au curare, enfin différentes opérations ont été menées dans ce style en Espagne, en Italie, en Suisse et en Allemagne. À ce moment-là, le service action, comme c'était sa vocation, n'intervenait donc que hors du territoire français. En principe, le service action ne doit pas intervenir dans le territoire national, il intervenait à l'extérieur, mais il intervenait aussi en Algérie. dans ce sens qu'à partir du 11e choc, on a créé certaines unités, certaines organisations, groupement de légion d'intervention, par exemple, et c'est comme ça que le patron de la Vilaya 4, Moulaïd, a sauté dans les Aurès pour avoir reçu un poste radio piégé. Un faux parachute, enfin, parachutage apparemment manqué. Le poste a été récupéré de la population qui l'a bien sûr livré au FLN. Quand le patron de la Vilaya a voulu le faire mettre en route, ils sont tous partis en première lumière, le poste avait été préparé à Sercotte et ça s'est très bien passé. Alors à la suite de cette aventure, on a demandé au service action de continuer dans ce genre d'affaires. Mais c'était extrêmement difficile parce que la difficulté essentielle, c'était de trouver parmi les gens d'Algérie, parmi les patrons d'Algérie, des gens capables de comprendre ce genre de travail et ce genre de renseignement. Et finalement, on demandait au GLI, qui était un détachement du 11e choc, des interventions qui ressortaient du travail de secteur. Bon, ça n'a pas marché très longtemps, et on a branché le 11e choc dans des opérations relativement véreuses, comme l'opération qui a été bâti Oiseau Bleu, après, en Kabylie, ou l'opération K, l'opération Comus, ou l'affaire Bellounis, ou l'affaire Olivier. Dans ce genre d'opération, le 11e choc recevait des ordres d'Alger, par exemple, pour l'opération Oiseau Bleu. La police avait monté un faux maquis avec des gens qui se prétendaient pro-français. En réalité, c'était des FLN. La police s'était fait piéger. Et on a demandé à une section du 11e choc, commandée par le capitaine Antique, qui n'était pas du 11e choc, de régler cette affaire. Il a fallu faire intervenir un régiment de parachutistes. On a récupéré une grande partie des armes, mais pas tout. Dans l'affaire Cobus, ça a été la même chose. C'est la police, la DST, qui avait monté un maquis dans la région de l'Orsenis. Et puis, quand ça a commencé à mal tourner, on a dit au 11e choc, vous leur donnez un coup de main parce que ça va pas bien. Effectivement, Cobus a été tué par ces gens. Bellounis, c'est encore une autre histoire. C'est les MNA. Les MNA d'Algérie avaient décidé de jouer leur indépendance à eux. Ils avaient créé une armée populaire. Et il faisait une guerre au FLN qui était une guerre vraiment, vraiment sérieuse, vraiment importante. On retrouvera d'ailleurs toute cette guerre en France pendant toute la guerre d'Algérie. Mais Bellounis, qui se faisait appeler général avec son armée populaire, avait reçu des assurances de Paris. Alger n'était qu'à moitié d'accord. Et Alger, d'ailleurs, n'avait pas transmis les ordres au commandant de secteur. Ce qui fait que le 11e choc, qui était imbriqué dans l'affaire de Bellounis, se trouvait de temps en temps sous le feu des légionnaires qui tiraient sur le MNA parce qu'ils pensaient que c'était des fellous ordinaires. Finalement, l'affaire s'est mal terminée pour cette raison-là d'abord, et puis parce que Bellounis avait pris la bonne habitude du FLN qui était de faire cracher, de faire sur le burnous et de ramasser l'argent de ses ouailles. Mais on retrouvera des bandes MNA. Après la disparition de Bellounis, on va retrouver des bandes MNA en 1960. En Algérie, dans la région du Boukaïd, dans la région du sud de Moussaada, les MNA n'ont pas complètement disparu. Mais le FLN, à ce moment-là, a pris le poil de la bête et vraiment c'est lui qui est l'interlocuteur valable. La France a cherché de façon très maladroite, parce que c'était des partis politiques qui menaient le jeu, a cherché de créer une troisième force avec des Algériens de haut niveau, plus ou moins compromis avec nous, plus ou moins corrompus aussi souvent. Certains étaient des hommes politiques, on les trouvait à l'Assemblée, on les trouvait dans différentes affaires intéressantes, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour différentes raisons, parce que ces gens-là n'avaient pas d'impact dans la population, et puis parce que les partis politiques ont été incapables de mener leur affaire jusqu'au bout, et puis aussi parce que le FLN en France s'est attaqué à eux. Le FLN a commencé par assassiner Ali Chekal, qui était le vice-président de l'Assemblée nationale algérienne au stade de Colombes. Et ça a été le début des attentats qui ont été montés en France par le FLN contre les Européens.
Nous allons en parler dans un instant, mon commandant. Je voudrais que nous revenions sur une question qui est importante. Nos auditeurs nous posent cette question. En quoi consistait la bleuite ?
Les bleuites, on les a appelés bleus parce qu'ils étaient, vécus de jeans bleus. Et c'était des volontaires musulmans qui servaient le capitaine Léger. Le capitaine Léger était un brillant soldat venu des SAS d'Angleterre, passé par le GCM en Indochine, le 11e choc, qui est mort récemment d'ailleurs. Un garçon qui avait beaucoup d'imagination et qui était un garçon extrêmement courageux. Et il avait monté cette équipe directement sous les ordres de Godard, et il faisait sa guerre. C'était avec lui, c'était l'imagination au pouvoir. Et il a trouvé le moyen d'infiltrer ces gens, qui étaient des musulmans, de les infiltrer dans la Casbah.
C'est l'ancien FLN ?
La plupart, pas toujours, beaucoup. Pas toujours, mais une bonne partie était ancien FLN, ou d'autres étaient simplement des Arabes dont les parents avaient été égorgés par le FLN, ou qui étaient pro-français. Ses principaux adjoints, Surcouf par exemple, c'est un vieux soldat qui était d'Indochine. Oui. Mais il avait une quinzaine d'hommes, pas plus, hein. Et avec ça, il a fait un travail extraordinaire parce qu'il avait un contact extrêmement étroit avec toute la population de la Casbah, toute cette petite classe de trafiquants, de bricoleurs, de gamins, des trucs comme ça, qui souvent jouaient les sentinelles, comme ça. Et il faut dire que Léger était né en Afrique du Nord, donc il connaissait bien le système, et il a réussi, en employant les méthodes de l'adversaire, sans jamais de violence. Il n'y a jamais eu de violence exercée par les Bleus, sauf les règlements de compte au PM ou à la grenade. Il y a eu le combat. Mais il n'y a jamais eu de torture effectuée par les FLN.
Par les Bleus.
Par contre, ce qui est arrivé, c'est que des prisonniers faits par les Bleus, qui étaient mis en prison, disparaissaient des prisons. Là, on tombe dans une autre histoire.
Oui, on pourra peut-être l'aborder tout à l'heure. Alors, une autre question à propos des affaires des services en Algérie. Le détournement de l'avion de Ben Bella et des chefs...
Ça, c'est une affaire qui a été montée carrément par les services de renseignement de Paris. Il y avait quand même à Paris, ce qui était le SDECE à l'époque, une équipe de renseignement extrêmement trapue, qui travaillait bien avec les Suisses, les Allemands de Galen et certains réseaux du Maroc. Et ça a été monté à partir de Paris. Contre la ville du Cournot d'ailleurs, qui était le chef de cabinet de Lacoste.
Oui, mais tout de même avec l'accord de Max Lejeune.
Hein, il y avait une bénédiction politique.
Le général Loriot a téléphoné à Max Lejeune qui a dit « je vous couvre ». Alors ensuite, on a raconté que les militaires avaient mis le gouvernement devant le fait accompli.
Absolument
effectivement,
pas.
Mais ce qui s'est passé, c'est que Max Lejeune n'en avait pas rendu compte à Guy Mollet, tout simplement.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Philippe Conrad, vous vouliez intervenir.
Oui, nous allons revenir un instant sur la bataille d'Alger avec le général Fèvre, notamment à propos d'un témoignage qui a été mis en avant ces derniers mois, celui d'une militante FLN, Louisette Ilgariz, qui prétend avoir été torturée par le colonel Bijard en personne. Et je crois que vous avez des éléments particuliers à nous apporter à ce sujet.
Là, il y a une contre-vérité totale. D'abord, le colonel Bijard n'était pas à Alger le 27 septembre quand Louisette Aguilaris a été arrêtée. Il était en opération dans l'Est oranais. D'autre part, Louisette Aguilaris a été arrêtée à Chebli, qui était le PC du premier chasseur parachutiste, du colonel Maillère. Ça m'étonnerait que le troisième RPC qui était dans l'oranais soit venu arrêter Louisette à Chebli. D'autre part, j'ai fait une recherche auprès des archives hospitalières de militaires d'Alger. Louisette Aguilaris n'a jamais été hospitalisée dans les hôpitaux militaires d'Alger, contrairement à ce qu'elle dit. Et enfin, dernier point, c'est le témoignage du colonel Valette Dozia, qui à l'époque était au troisième bureau de Massu, et qui a écrit plusieurs lettres au Monde, dont le Monde n'a pas voulu tenir compte d'ailleurs, où il dit « jamais il y a eu de prisonniers interrogés au PC de Massu à Hydra. Massu ne l'aurait pas supporté ». Donc je pense que là, c'est un certain nombre d'éléments qui... Et d'autre part, le professeur Frémaux a rencontré dernièrement un communiste algérien qui lui a dit « Mais Louisette, elle n'a jamais été torturée. » Donc, vous voyez, ça, c'est un montage.
C'est une grande imaginative.
Un montage fait probablement par les descendants du FLN qui veulent montrer que... faire oublier la violence dont ils ont été, non pas les victimes, mais les auteurs.
Et peut-être voilà. Même, aurait-elle été retournée à Jean Double, non ? Ce bruit n'était pas
possible. Je ne sais pas. Ouais. Vous l'avez probablement vu à la télévision dans une émission célèbre. Elle est ridicule, cette femme. Elle cultive des fleurs dans une baignoire en disant que c'est la baignoire dans laquelle elle a été torturée. C'est de l'imagination.
On aurait pu lui vendre la baignoire de Marat.
L'imagination morbide, oui, tout à fait. Alors, d'autres points qui mériteraient d'être contredits, c'est l'histoire du général Bollardière. Hein. On présente le général Bollardière comme un ennemi de la torture, etc. Il faut reconnaître que le commandant Bollardière a été un chef de commando, d'abord dans la résistance et ensuite en Indochine, remarquable. Mais à partir d'un certain grade, il perd complètement les pédales. Et en particulier, il faut savoir que commandant en Indochine les troupes aéroportées, il a commis des fautes de commandement très graves en permettant que il y avait quelques accidents de saut en parachute. Il n'a rien fait pour les éviter, pour prendre des remèdes pour les éviter. D'autre part, il faut savoir que Bollardière était un camarade de promotion de Massu et qu'il était jaloux de Massu parce qu'il était sous ses ordres. Et donc ça ne lui convenait pas. Et il était... Massu avait eu des renseignements disant que dans le secteur que dirigeait Bollardière, la sécurité n'était pas assurée, que les colons n'étaient pas protégés, que Bollardière s'occupait de promotion sociale, etc., mais qu'il ne faisait pas d'opération. Et Massu avait envoyé un capitaine pour vérifier ses accusations. C'était le capitaine Lemire qui, au retour, a fait un rapport à Massu en disant, effectivement, c'est la pagaille complète dans le secteur de Bollardière. Alors, vous voyez, ça explique quand même un certain nombre de choses. Et puis, il faut ajouter que Bollardière était conseillé par des politiciens, des politicards, qui s'appelaient Servan Schreiber, qui était à sa brigade, qui s'appelait une brigade d'armée de l'air. Hein,
c'était oui, mais Bernard Noir. Oui, mais il y avait aussi Barbereau.
Et par le colonel Barbereau, qui était lui aussi un homme politique.
Et il avait aussi avec lui le colonel Fournier, qui avait combattu aux brigades internationales, qui appartenait au Parti communiste, et que j'ai connu personnellement comme capitaine pendant la guerre en 1943-1945.
Alors la cause de la sanction qui a été imposée au général de Bollardière, c'était d'avoir refusé de fouiller les mosquées. Ça n'était pas du tout d'avoir refusé de torturer les gens. Et donc, l'ordre de Massu de fouiller les mosquées était tout à fait justifié, parce qu'on avait constaté qu'il y avait de l'armement dans ces mosquées, et Bollardière s'y était refusé. Et c'est le motif de sa sanction. Et quand Bollardière est venu à Paris, a été reçu par le général Ely, qui était le chef d'état-major, Ely lui a dit « Vous êtes un criminel d'avoir refusé cet ordre ». Parce que vous attentez à la vie des jeunes militaires français. Et enfin, j'ajouterai que sur la fin de ses jours, Bollardière était devenu un pacifiste complètement gâteux, qui allait faire des manifestations autour de Mururoa avec les associations que nous connaissons bien.
Mon général, mon commandant, nous avons fini avec la bataille d'Alger. Voulez-vous que nous insistions encore quelques minutes ? Nous pouvons le faire, mais j'aimerais peut-être que nous passions à la dernière phase de cette émission, c'est-à-dire la lutte contre le FLN en métropole, pour en arriver à cette commémoration scandaleuse que nous vivons en ce moment. Voulez-vous que nous passions à cette dernière phase ?
Ben, je crois que là, c'est le domaine du commandant Muel.
Nous avons là un témoignage ou un texte d'auditeur qui est intéressant à propos d'Ali Chekal. Victoria.
On nous dit « Je rappelle le courage extraordinaire de ce grand Français originaire de Mascara, très bien connu par ma famille, Ali Chekal, qui, en dépit des menaces, sut montrer son patriotisme jusqu'à la mort. Existe-t-il un lycée français ou une université française qui porte aujourd'hui le nom de ce grand Français musulman ?»
Je crains que non. Alors, mon commandant, la lutte contre le FLN en France, d'abord, situez-nous, si vous le voulez, ce que l'on peut dire comme différence essentielle entre le FLN et le MNA. Car, en grande partie, cette lutte, cette agitation en France va être une lutte interne. oui. Au nationalisme algérien.
À l'origine, c'est Messali Hadj. Messali Hadj, qui a d'abord été au Parti communiste, qui a fait des stages à Moscou, qui a fait plusieurs stages en URSS, et qui a monté un parti, le Parti populaire algérien, sur le système marxiste, marxiste-léniniste. Il avait dans son parti eu à peu près une dizaine de milliers d'adhérents, pour la plupart en France, parce que, bien sûr, c'était en France qu'il y avait des ouvriers algériens, et c'est là où la propagande avait le plus de pouvoir. Bon, ces gens-là payaient une cotisation, comme on paye au parti, et bien sûr, quand ils allaient en Algérie, ils faisaient de la propagande, et il y avait à peu près, on évalue à 1500 le nombre de MNA en Algérie avant l'explosion de 54.
Militants.
Oui.
1500 militants.
Et le MNA avait eu différents problèmes, parce que Messali Hadj avait été mis en prison à plusieurs reprises. Finalement, les Allemands l'avaient sorti de prison. Et finalement, après la guerre, ce sont les Anglais qui ont imposé le retour de Messali en Afrique du Nord. Ça, le rôle des Anglais, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission.
Des Anglais et des Américains.
Et Messali, en 54, a été désavoué par une partie de ses troupes. Il y a eu un éclatement, si vous voulez, et une partie lui est restée fidèle, et l'autre partie a créé le FLN, qui était composé des activistes les plus violents. Et MNA, lui, avait conservé quand même une certaine volonté d'apparence de l'égalité, bien qu'il ait eu l'idée de créer ce qu'on appelait l'organisation spéciale, système marxiste, cette organisation spéciale qui, pendant des années, même avant 54, avait sévi en Algérie. Par exemple, c'est l'histoire de l'attaque de la poste d'Oran, où il va aller chercher de l'argent. Alors là, il y a eu une querelle entre Ben Bella et Mohamedi Saïd pour savoir qui a fait le coup. Finalement, c'est Ben Bella qui est allé en prison, et enfin, ce sont des querelles de chefs. Donc, cette organisation de Messali a perduré en France, parce qu'en France, elle était bien structuré, avec le système des syndicats, tout à fait dans le système communiste. Le FLN, lui, était beaucoup plus violent, et dans un premier temps, quand le FLN a pris pied en France, c'était un groupe minoritaire, parmi les plus violents d'ailleurs, qui provenaient des plus violents du MNA, qui cherchaient le pouvoir, et qui cherchaient surtout, dans un premier temps, à récupérer l'argent des cotisations. Le pouvoir, c'est le fric, et c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont commencé à dénoncer le MNA à la police française. Le MNA, bien sûr, était pénétré par la police. C'est un parti qui existait depuis plusieurs années, Parti populaire algérien. Le FLN a joué de façon très astucieuse, et la police a commencé par contrer le MNA. Ce qui a fait le jeu du FLN. Très rapidement, le FLN a pris en main cette population algérienne, à tel point qu'au bout de 2 ou 3 ans, il y avait 100 000 cotisants qui ne payaient plus les cotisations, mais qui payaient l'impôt révolutionnaire, que tout le monde payait, y compris les commerçants, y compris les chauffeurs de taxi, y compris les prostituées d'ailleurs. Il y avait un tarif pour les prostituées, un tarif pour les souteneurs, et c'était ça ou le sourire kabyle. La guerre s'est déroulée entre ces deux groupes, ces deux factions, de façon extrêmement sauvage, et on pense, enfin, d'après le calcul officiel, d'après les chiffres officiels, on arrive, pendant la guerre d'Algérie, à plus de 4000 morts de nord-africains. Moi, je pense
que... Sur le territoire métropolitain.
Sur le territoire métropolitain. Je pense qu'on peut largement majorer le chiffre, parce que beaucoup de cadavres n'ont pas été retrouvés. C'est une époque où on construisait beaucoup dans les banlieues, et c'était un moyen facile pour les faire disparaître. Parmi ces assassinats, d'abord, il y a eu cette affaire MNA FLN, mais aussi le FLN s'est attaqué à ces leaders politiques qui auraient pu créer une troisième force, qui auraient pu s'opposer à eux et rester dans la mouvance française. C'est comme ça qu'est mort Ali Chekal, c'est comme ça que Barak Rock ou Ben Abiles ont été tués, c'est comme ça que beaucoup de ces gens-là ont disparu de façon violente. Le FLN avait monté en métropole tout un réseau extrêmement bien constitué, avec ses tueurs, avec ses collecteurs, avec ses organisateurs, une organisation politico-administrative tout à fait convenable, à tel point que La prise en main des populations était telle qu'on leur interdisait de contacter l'administration française. Et il faut dire que jusqu'en 58, l'administration française n'avait pas fait grand-chose pour cette population, qui comportait à peu près à l'époque 200 à 300 000 Nord-Africains. Ce n'est qu'en 58, avec l'arrivée de Papon à la préfecture de police, qu'on a commencé à penser que il fallait d'abord protéger ces gens-là, qui étaient des ouvriers, qui ne demandaient pas à assassiner les Français, qui demandaient à être tranquilles et qui en avaient marre de payer un impôt au risque de leur vie. Et c'est là qu'on a commencé à créer ce qui était l'équivalent des SAS d'Algérie. On a créé des SAT, des sections d'assistance technique dans Paris et dans la banlieue parisienne, en particulier dans les zones de bidonville comme Nanterre, par exemple, ou plutôt. À partir de cette organisation, on a tenté de prendre en main la population, mais c'était pratiquement impossible. La police était complètement débordée, la police n'en pouvait plus, d'autant plus que la police, comme ça s'était passé en Algérie jusqu'en 1956, la police était contrainte de travailler avec les lois d'un état de droit. Donc, quand il y avait un assassinat dans la rue, on faisait une reconstitution, on prenait des mesures, on prenait des photos, on prenait des analyses, et comme il y avait une moyenne de 400 à 500 assassinats par mois, la police n'en pouvait plus. Ajoutez à ça qu'à partir de 58, les porteurs de valises qui ont décidé d'aider le FLN avaient mis sur pied ce qu'on appelait le collectif des avocats. Maître Vergès, Maître Oussédic, une vingtaine d'avocats qui s'étaient spécialisés dans la défense du FLN, qui leur enseignaient les méthodes pour contrer la police. Ils sont même allés plus loin, puisque un brigadier de police, le brigadier Grandjouan, a été assassiné parce que les avocats avaient donné son nom au tueur. Il y avait un témoin, et le brigadier était témoin de l'assassinat, et pour que l'affaire n'aille pas plus loin, il en est mort. L'affaire a donc changé à partir de 58, ce qui est un peu curieux, parce que ça correspond à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. En fait, c'est l'arrivée de Debray et de Papon. Debray n'avait pas encore viré ses cutis, et Debray a entamé une lutte extrêmement sévère contre le FLN, qui d'ailleurs, en septembre 58, avait déclaré la guerre à la France. Dans la nuit du 28 septembre 58, on a eu, je crois, 32 attentats dans la nuit en métropole. C'est une époque que les Français ont complètement oubliée, c'est sorti de la mémoire collective, mais c'est un moment où les raffineries ont brûlé en Normandie, elles ont brûlé dans le midi, les trains ont sauté, les centraux téléphoniques ont été attaqués, des policiers ont été abattus froidement, ça a été vraiment une abomination, à tel point que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait dit: on est en droit de se demander si on ne va pas demander aux citoyens moyens, si on ne va pas lui donner le droit de légitime défense. Ces attentats ont continué, on a trouvé une bombe à Tour Eiffel, on a trouvé des bombes un peu partout, et finalement ce n'est que grâce à l'action policière, qui a été obligée d'employer des méthodes qui n'étaient pas toujours catholiques, pour qu'on a rejoué la bataille d'Alger à Paris. Mmh. Et alors là, le MNA, qui s'entretuait allègrement avec le FLN, est devenu un peu l'auxiliaire de la police. La police a changé son fusil d'épaule et a protégé, dans certains cas, le MNA. Les attentats ont continué de façon extraordinaire. À Paris en particulier, à la fin de l'année 59, un officier SAT, le capitaine Montaner, qui avait été SAS en Algérie et qui connaissait bien le sujet, a réussi à obtenir du pouvoir local, de Michel Debray, la création de Harki à Paris. Ces harkis, pour la plupart, ont été recrutés en Afrique du Nord, et ils ont été mis en place dans les quartiers difficiles, dans les quartiers chauds, où il y avait beaucoup de musulmans, et dans le centre de Paris, dans le 14e arrondissement en particulier au départ, puis à Barbès, à la Goutte d'Or après, et après dans les bidonvilles. Ces harkis n'avaient pas, contrairement à la légende, mission de massacrer les musulmans, ils avaient pour mission, au contraire, de protéger les musulmans du FLN et d'empêcher justement qu'ils soient saignés à blanc avec la cotisation, avec l'impôt, et saignés autrement. On a, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, on a des traces extraordinaire et permanente des plaintes du FLN disant: dans mon secteur la collecte ne marche plus depuis que les calots bleus, les harkis avaient des calots bleus comme les CRS, depuis que les calots bleus sont là. Donc les harkis sont devenus les ennemis déclarés du FLN. Ces harkis qui ont opéré pendant à peu près 18 mois, commandés par 3 officiers français, un capitaine et 2 lieutenants, ont eu 47 tués en 18 mois. Et leur action, ça s'est ensuite traduit par la récupération de 700 pistolets ou revolvers, 90 mitraillettes, 29 fusils de guerre, 2 fusils mitrailleurs, 13 grenades, 20 000 cartouches, 40 bombes, et différentes des stocks d'explosifs.
Bon, mon commandant, pour nos auditeurs, je rappelle que vous détaillez tout cela dans votre livre tout à fait important. Je rappelle le titre du livre du commandant Raymond Muel, 7 ans de guerre en France quand le FLN frappait en métropole. Donc vous détaillez bien toute cette histoire des harkis de France et de la lutte contre le FLN menée par la police et par les harkis.
Oui, alors ces harkis, à partir de 61, ont été regroupés parce que la politique avait changé. On les a tous regroupés au fort de Noisy. Et ils n'ont plus eu d'action d'infiltration. Montaner avait réussi à infiltrer des gens, des gens de chez lui, qu'il appelait des hors-cadres. L'un d'eux, d'ailleurs, était chez un chef de zone FLN qui jouait le double jeu. Donc, si vous voulez, ce que Léger avait fait à Alger, Montaner était en train de faire à Paris. Ça foncièrement déplu à cette population de gauche, à M. Claude Bourdet, à tous les députés ou conseillers municipaux des arrondissements parisiens, où on a accusé les harkis de torture abominable, ce qui fait que Montaner a été vérifié plusieurs fois par la commission Patin, ça, qui n'a jamais rien trouvé d'ailleurs. Ça. La tête de Montaner était mise à prix 5 millions à l'époque, et sa voiture avait reçu 13 impacts de balles, c'est pour dire que l'affaire était chaude. Ça a été un véritable combat de rue autour des postes de police ou autour des patrouilles qui circulaient dans Paris. Il y a même eu une poursuite dans le métro où après les FLN, après avoir attaqué un poste de harkis, on bondit dans le métro, les harkis ont pris le métro suivant et avec la complicité du conducteur se sont lancés à la poursuite du premier métro. Et ce pauvre conducteur du deuxième métro a eu de gros ennuis avec son syndicat.
Oui, il ne faisait pas être un gréviste, lui, sans doute.
Non.
Peut-on dire qu'il y a eu une bataille de Paris comme il y a eu une bataille d'Alger? En général, mon commandant.
Je pense que le terrorisme a été plus ciblé, autrement ciblé en France, parce que ça s'est adressé à des objectifs économiques dans la plupart des cas. Mais on peut considérer en France que des attentats contre des personnes, on a à peu près 150 policiers ou gendarmes qui ont été tués, et à peu près 200 civils qui malheureusement se trouvaient là au mauvais moment, qui en sont morts. On évalue à peu près 400 les métropolitains qui ont été tués en France à propos de la guerre d'Algérie, que ce soit des forces de l'ordre ou de simples civils.
Mon général.
Non, ce qu'on appelle la bataille de Paris, c'est uniquement la manifestation qui a eu lieu le 17 octobre.
Oui, nous allons y venir, là.
On parlera tout à l'heure. Hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une bataille du FLN en France. Il y a eu un combat du FLN contre le MNA, d'une part, et puis contre la police, quand même.
Ça n'a pas pris les proportions d'Alger.
À un moment, les ordres ont été d'abattre des policiers, quels que soient les policiers. Ouais. Hein, il ne s'agissait pas de tuer le responsable du renseignement contre les FLN, mais le policier du coin qui était en faction dans son poste.
On a même l'exemple d'un employé des pompes funèbres et d'un conducteur d'autobus qui avait des casquettes qui ont été prises par des policiers et qui ont été abattus.
D'accord.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec bien sûr Dominique Vénère et Philippe Conrad, Victoria, je n'oublie pas Victoria, et comme invité, nous avons ce soir le général Fèvre et le commandant Muel. Mon commandant, venons-en maintenant à cette grande affaire du 17 octobre 1961, qui a donné lieu à cette scandaleuse commémoration de ces derniers jours, et notamment d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler le contexte et l'affaire en elle-même?
Le contexte, c'est qu'au mois d'octobre 1961, je crois que du 1er janvier au mois de juillet 1961, il y avait 400 morts nord-africains dans Paris. Et une douzaine de policiers avaient été abattus. C'est dire que le FLN était particulièrement actif, toujours dans des objectifs force de l'ordre ou pour sa prise en main des populations. Le préfet Papon a décidé d'instaurer un couvre-feu pour limiter la circulation des Nord-Africains le soir, tout en acceptant que ceux qui travaillaient la nuit, bien sûr, bénéficiaient de laisser passer. Ce qui a fait dire à certains que c'était pas la peine de se casser la tête. Il y avait tellement de faux papiers possibles qui circulaient grâce aux porteurs de valises que tous les Nord-Africains de Paris pouvaient avoir des laissés passer. Mais c'est le prétexte qui a été choisi par le FLN pour monter cette manifestation du 17 octobre où il avait entrepris de faire descendre dans Paris on a dit 50 000, mais je pense qu'il y avait de 30 à 40 000 Nord-Africains qui ont convergé sur Paris. Le but avoué, donc, c'était de lutter contre ce couvre-feu qui, en fait, ne gênait personne, mais c'était aussi faire peser l'opinion française à propos des accords d'Évian qui étaient en cours de discussion. Le FLN escomptait qu'avec cette manifestation de masse, comme les Français, avec leur courage habituel, préféraient tout abandonner plutôt que de continuer la guerre, le FLN pensait que ce serait la goutte d'eau, l'élément déterminant qui permettrait d'arrêter la guerre d'Algérie. D'ailleurs, les manifestants portaient des pancartes, la fin de la guerre d'Algérie, négociations, tout comme ça. Ces gens-là, donc, ont été aimablement conviés à défiler sous la rubrique « Si vous ne venez pas à la convocation, vous serez exécuté ». Bon, c'était tout simple. Les enfants pouvaient rester à la maison jusqu'à l'âge de 10 ans et les vieillards, mais les femmes, les gosses de plus de 10 ans et tous les autres devaient être dans la rue. Il faut bien reconnaître que sur les 30 ou 40 000 Nord-Africains qui sont descendus, beaucoup n'étaient pas chauds pour aller à l'encontre de ce qui allait se passer. Et en fait, la préfecture de police a été prévenue très tard de cette manifestation, ce qui fait que les gens qu'on a mis en face de 40 000 manifestants, il y avait, on a compté, les indices 1300 et les autres 1600 gendarmes, CRS ou policiers. La différence de 300 vient, Montaner me l'a expliqué, vient de ce qu'un certain nombre de policiers et de gendarmes étaient restés en base arrière auprès des PC. Il y avait 1300 actifs pour arrêter cette manifestation, et ils étaient divisés au point chaud, c'est-à-dire au Pont de Neuilly ou dans le centre de Paris, parce que ces gens-là devaient se rassembler sur les Champs-Élysées, à l'Opéra, et faire vraiment l'occupation du centre de Paris. Alors, la manifestation a été interdite, la foule s'est présentée, on parle toujours du Pont de Neuilly, où paraît-il, au milieu des crimes abominables, en fait, il y avait 25 policiers, en képi, sans casque, il n'avait pas de casque, avec uniquement des bâtons pour arrêter les gens, pour arrêter la foule qui arrivait, plusieurs milliers qui arrivaient au nord du Pont de Neuilly, côté Puteaux, et il y en avait à peu près une quarantaine qui étaient à l'autre bout, du côté Paris. Les 25 premiers ont été culbutés sans problème et sans violence. Bon, quand les flics ont vu qu'ils perdaient la main, là, effectivement, ils ont distribué quelques horions. Mais il n'y a pas eu de tués dans cette affaire. Des coups de feu sont partis, mais des témoins affirment que les coups de feu sont partis de la foule. À ce moment-là, le commissaire de police a fait tirer une rafale par un harki qui servait d'interprète. Les harkis de Paris n'intervenaient pas dans le maintien de l'ordre. Mais la foule est arrivée à l'autre bout du pont, où là, les attendait le deuxième lot de policiers. Et les cars, dans lesquels on les a invités à monter, et ils sont montés dans les cars, et ça, c'est l'affaire du pont de Neuilly, c'est ça, c'est pas autre chose. Ça n'est pas ce que raconte le journal du dimanche de la semaine dernière, où un musulman raconte que, dans le charnier du pont de Neuilly, il a tiré son fils par le pied parce qu'en face, il y avait un homme en kaki qui tirait avec une mitrailleuse sur trépied. Bon, la police n'est pas en kaki, il n'y avait pas de mitrailleuse, la police n'en a pas. Et toute l'histoire de...
Les contes des mille et une nuits.
La bataille de Paris est basée sur des témoignages de ce genre. Le premier témoignage a été écrit par Ali Haroun, qui était le trésorier du FLN, de la Fédération de France du FLN, qui bien sûr a défendu son point de vue, et ça a été repris par Enaudi, qui est dans le civil et fonctionnaire au ministère de la Justice, d'ailleurs on a des gens qu'on mérite, et lui, il a inventé, à partir de l'affaire Desnaudet, il a inventé ce qu'il appelait la bataille de Paris. Il n'y a pas eu de bataille de Paris, ça a duré 3 heures. Et en 3 heures, on aurait tué 300 musulmans, mais il n'y a pas dans aucune des manifestations violentes qu'on a connues n'importe où, que ce soit à Gênes, à Côte-Bourg, en Israël, où tous les jours ça se passe, on ne tue pas 300 types comme ça, surtout avec des bâtons. Bon, cette affaire-là est complètement bidon. Alors après, c'est vrai qu'on avait stocké dans Paris 12 000 musulmans qui étaient répartis, les uns à la préfecture de police, les autres à Coubertin, enfin dans différents endroits. À la préfecture de police, Hénaud y raconte qu'on a fusillé 40 musulmans et qu'on les a jetés dans la Seine. Dans la cour de la préfecture de police, c'est vrai que là, les flics ont eu la main lourde. Ils ont donné des coups de bâton allègrement. Mmh. Et c'est le capitaine Montaner qui a averti Papon, qui a fait cesser ce jeu. Parce que les flics, il faut bien reconnaître qu'ils en avaient marre de se faire flinguer à tous les coins de rue. Bon, et dans tous les pays du monde, on aura la même constatation. Ça n'est jamais celui qui se bat qui tape sur le prisonnier. C'est toujours le type qui le reçoit. Dans la cour de la préfecture de police, on aurait fusillé 40 personnes. Les 1200... L'autre qui était là, personne n'a témoigné, donc personne ne l'a vu. Il n'y a pas de trace dans la cour de préfecture de police.
Pas d'impact de balle.
Il n'y a pas de trace de balle. Il aurait fallu, pour jeter 40 personnes dans la Seine, il aurait fallu quand même au moins deux coulis pour porter les corps. Or, la préfecture de la Seine, la porte qui donne sur la Seine est fermée, verrouillée. Il aurait fallu faire le tour. Bon, absolument impensable. Hénaud y raconte dans son livre, qui est un tissu de mensonges, grossiers, on marchait dans les cervelles éclatées, il y avait des bras cassés, les policiers avaient coupé dans les commissariats avaient coupé des fêtes en morceaux, il a l'essence.
Ils n'étaient pas cannibales un petit peu, les policiers?
Non. Il appartient à un parti qui est un spécialiste de ce genre d'affaires. Les 75 000 fusillés, la révolution d'octobre, il connaît.
Oui, on compte en France CFA.
Ouais. Et à chaque fois, il améliore le score, parce que dans son premier livre, il nous parle de 74 disparus, tués ou disparus. Il donne des noms, en commençant à partir du mois de septembre, en finissant au mois de décembre. C'est quand même beaucoup pour une manifestation qui a duré 3 heures, mettons 48 heures, puisqu'il y a eu la période où les gens ont été internés le lendemain. Alors, des gens sérieux ont fait des études sur le sujet. Mandelkern, qui est un homme de la Cour des comptes, qui a été chargé par Chevènement, avec un groupe de professionnels, ont épluché les archives de la préfecture de police. Hénaud y a dit, non, les archives, les vraies archives, elles n'existent pas, tout ce qui ne lui correspond pas à ce qu'il souhaite, bon, c'est pas bon, ça a été caché ou ça a été détruit.
Il devrait être signataire de la pétition des 55 contre moi, ça doit être la méthode. Tiens, j'ai envie de lui demander, vous êtes le 56e.
Un deuxième témoin, si j'ose dire, qui est un professeur à la Sorbonne, qui s'appelle Brunet, qui est un professeur éminent et qui ne se défend pas d'être gauchiste d'ailleurs, enfin il est très à gauche, c'est un ami de Claude Bourdet et qui a l'étude des rapports. On connaît la valeur du rapport. Lui, il arrive à une trentaine de morts pendant cette période.
Exactement. Moi, je connais assez bien le professeur Brunet, qui est professeur à Normale Sup. Hein. C'est quand même quelqu'un d'éminent.
Autre chose qu'à nous dire.
Bon, alors, Brunet, c'est le seul qui a eu accès à toutes les archives. Hein. Il a eu accès aux archives de la préfecture de police, de la justice, des hôpitaux, de l'identité judiciaire et je ne sais plus quoi. Hein. Il a eu tout ce qui était disponible au point de vue archive. Et sa conclusion dans son livre, c'est de... Il estime qu'il y a eu 13 morts, certains ou quasi certains, bon, vous voyez déjà la nuance, et 17 possibles ou probables. Voilà.
Dans la manifestation, et autour de la manifestation.
Parmi les 17, certains auraient pu être abattus par le FLN. Voilà ce qui est
écrit. Règlement de compte.
Voilà. Oui, mais... Il a publié ça dans un article de l'Histoire du mois d'octobre. Hein, l'Histoire a un peu manipulé l'affaire en faisant des sous-titres où on retient le chiffre de 200, hein, évidemment, et puis en traitant le... En parlant de 30 morts, alors que dans le texte, on dit 30 morts il en est pas sûr. Hein,
on compte dans les morts un vieux mort d'une crise cardiaque ou un autre écrasé par une voiture qui reculait.
Mais Montaner, qui a refait l'étude, lui, il arrive à 7 morts. Hein, ouais. Bon, et Montaner a l'avantage d'ailleurs de citer les noms. Alors,
qui a publié où ?
Non, il n'a pas publié. Il a fait une étude personnelle qui m'a envoyé.
Quand va-t-il publier ?
Je ne sais pas s'il publiera.
Il ne publiera pas parce qu'il ne sait pas où le publier.
L'Afrique réelle veut bien le publier. Je suis prêt à le publier dans l'Afrique réelle.
Vous l'avez là ? Un rapport de Montaner.
Nous en parlerons tout à l'heure. Je suis prêt à publier ça dans le prochain numéro de l'Afrique réelle.
Bon. Alors il faut ajouter quand même parmi les causes et que Enodi semble ignorer complètement et Brunet aussi, c'est l'existence du FAD.
Oui, il n'en parle pas du FAD. Hein.
Le FAD, c'est une organisation tout à fait artificielle qu'on nous avait demandé à nous, Service Action, de créer en 1960 pour monter une pseudo-troisième force qui pourrait faire croire au FLN qu'il ne serait pas le seul interlocuteur dans les accords. Alors, le moyen pour monter cette affaire, le FAD, c'était le Fonds Algérien d'Action Démocratique. On nous avait dit, vous employez, quand je dis on, c'est Michel Debray. Et quand Michel Debray, Service Action, c'était M. Focard. Mm-hmm. Le vrai patron du Service Action, c'était M. Focard. M. Menlik, qui joue les importants dans l'affaire, n'a pas touché une bille dans cette aventure. Donc, on nous a demandé à nous, Service Action, de monter un mouvement qui servirait de troisième force. Avec les méthodes des FLN, c'est-à-dire en flinguant les gens au coin des rues. Hein, et en signant MNO, en signant FLN. Et pour ce faire, il a fallu chercher des tueurs. Bon, on avait des gens pour leur apprendre à tuer, mais pour tuer des gens dans la rue, c'est quand même un travail qui n'est pas le nôtre. Encore que c'est arrivé quelquefois. Le FAD a été monté de cette façon à partir de dissidents du MNA. Mm-hmm. Messali était Auvert, quelque part en province, du côté de dans l'Oise, je crois. Le FLN avait tenté de l'assassiner, mais ça n'avait pas marché. Mm-hmm. Et puis, ce FAD, ça existait bien, puisqu'il y avait un journal qui était fait par nous. Mm-hmm. Et il y avait une représentation politique. On avait des équipes de tueurs. Et la représentation politique était en train de mettre sur pied une représentation à l'étranger d'un gouvernement. Mm-hmm. Ça devait se passer dans un gouvernement africain. Focard, bien sûr, étant parfaitement au courant de ce genre d'affaires. Et puis, un beau jour, on a parachuté des armes aux survivants du MNA.
Abdallah Chenmi.
Attendez, je crois que c'était à la fin 60. Hein. Oui, fin 60.
Oh non, c'est 61, à mon avis.
Fin 61, juillet 61. Ouais. Donc, c'est vous dire à quel point on était engagé dans cette affaire. On avait tenu une conférence très importante à Oran, où certains Européens, plutôt que d'aller dans l'Ouest brutal, préféraient jouer une troisième force. Et puis, à ce moment-là, on s'est aperçu que De Gaulle avait plusieurs fers au feu. C'était l'époque où il avait demandé à Perfit de créer sa partition, donc d'écrire un livre sur le sujet, de faire des article dans Le Monde, et il a dit à Perfit non, on laisse tomber. Et nous, il nous a dit à nous, de la même façon, on laissait tomber. On a laissé tomber du jour au lendemain, comme ça, notre affaire. Et les gens qu'on avait engagés dans l'aventure, on les a abandonnés. Et en France, ça s'est relativement bien passé. Mais ça a eu des conséquences importantes, parce que l'histoire du FAD, c'est l'arrestation de Salan, en Algérie.
Comment cela ?
Parce que le FAD, par le biais d'intermédiaires divers, proposait à Salan de rejoindre l'OS. Et Salan a été pris au piège, on lui a manipulé toute une affaire, et il a été arrêté à cause de ça. Les équipes du FAD qui opéraient à Alger, il y avait une douzaine d'équipes qui avaient à leur actif une soixantaine de cadres FLN abattus, ont été confiés au Rocher Noir. Moins d'un mois après, ils étaient tous égorgés parce que les gens du Rocher Noir ont donné leur nom au FLN. Mais pour revenir à notre affaire de la bataille de Paris, le FAD, après cette manifestation, les gens du FAD, les MNA, ceux qui avaient le couteau facile ou le pistolet facile, puisque leur en avait passé, se sont dit, non, ces petits chefs FLN qui ont servi d'encadrement, qui ont poussé les gens dans la rue, maintenant on les connaît tous. Mmh. Et ils ont commencé à régler les comptes. Et je pense qu'on peut ajouter un certain nombre de cadavres dans la liste de M. Hénaudé qui proviennent de cette affaire.
Moi, c'est tout à fait intéressant. Là. Je ne sais pas si nos auditeurs ont bien conscience de la nouveauté des informations qui sont données en ce moment et de l'aspect original et novateur de cette connaissance de cet événement, de ces événements du 17 octobre. Mon général, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, parce que j'ai fait la même étude que mon ami Muel sur cette affaire du FAD, qui est dans un article qui est apparu dans une revue, dans un livre de la Vauzelle, qui s'appelait « Il n'est point de secret que le temps ne révèle », c'est cela.
Non, on en arrive maintenant, à propos de cette bataille de Paris, à une histoire absolument, abominablement grotesque, avec tout un support politique à un mensonge énorme. C'est même plus un mensonge, c'est une escroquerie, c'est tout ce qu'on veut. Et alors, le drame, c'est qu'on entend des journalistes vous dire « La salle charriait des cadavres ». Bon, les cadavres, on les a jamais retrouvés. Il y a un barrage, je crois, à Meulan ou quelque part par là, où quand même, on aurait dû en trouver quelques-uns.
Il n'y a pas de piranha dans la scène.
Et quand on entend le président de la République qui nous parle de ces 200 et 300 morts, parce qu'il a vu ça à la télé, on en vient à douter de ces informations. C'est ce que lui a fait remarquer d'ailleurs un Israélien en disant un chef d'État sérieux ne prend pas les informations à sa propre télévision.
Ah, c'est très intéressant. Eh bien écoutez, je vous propose une dernière pause musicale parce qu'il nous reste 20 minutes et nous allons devoir choisir parmi les derniers thèmes que nous allons aborder. Je vais peut-être demander... Je pense que nous avions un dernier point à voir avant de passer au problème plus général des harkis. Philippe Conrad avait une remarque à faire.
Oui, une petite information simplement pour signaler à nos auditeurs que notre ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, réunissait hier les professeurs d'histoire au lycée Louis le Grand pour leur dire comment il fallait enseigner la guerre d'Algérie et notamment les événements du 17 octobre. Et les spécialistes qu'il avait convoqués s'appellent Madeleine Réberiou, Benjamin Stora et quelques autres du Maccabée. Madame Veuve Mendès-France également, dont la compétence évidemment paraît tout à fait évidente sur ces questions. Alors il était précisé sur le carton d'invitation quand même, ces événements, n'est-ce pas, cette manifestation pacifique qui a fait plusieurs dizaines de morts, dit notre ministre de l'Éducation nationale, donc on est loin quand même des 300 ou 400 rêvés par Monsieur Hénaudy, et régulièrement repris d'ailleurs par nos jeunes de banlieue, puisque récemment on a vu au Val-Fouré qu'à l'occasion de l'acquittement d'un certains policiers, on évoquait de nouveau les événements d'octobre 61 en disant que c'était la même chose et puis qu'à l'époque c'était 400 morts qui avaient été les victimes de la police.
Je dois dire que j'ai été contacté deux fois aujourd'hui par Radio Notre-Dame et que j'ai pu contester les chiffres d'Hénaudy.
L'étudiant qui nous envoie un message nous dit qu'il a assisté donc à cette réunion non objective.
Oui, mais nous sommes toujours dans le grand problème de la manipulation de l'histoire et dans cette désinformation complète. Et si nous ne nous battons pas rapidement, nous allons tomber dans un régime stalinien, le régime stalinien de l'information historique.
Cela dit, sur le 17 octobre, certains ont été obligés de reculer quand même. Dans ce Hénaudy, maintenant, n'est pas du tout considéré comme quelqu'un de sérieux, si ce n'est par les journalistes dont on sait la rigueur quand il s'agit d'histoire.
Oui, bien sûr, parce que les informations que j'écoutais tout à l'heure sur France Info, utiliser le terme parfaitement choisi de carnage.
Ah bon ?
Carnage.
Bien sûr.
Oui, alors je prends donc l'engagement de publier dans le prochain numéro de l'Afrique réelle le rapport que vous venez de me remettre, mon commandant. Ce sera tout à fait intéressant. Nous serons en plein dans l'actualité et nous pourrons également parler de votre livre qui fait vraiment le point sur la question. Alors, il nous reste maintenant un gros quart d'heure. Je souhaite que nous abordions cette question des harkis en général, qui va faire le lien avec les harkis en métropole et les harkis en Algérie.
Bien sûr.
Oui. Alors, donc, nous en arrivons à la fin de la guerre d'Algérie, et nous en arrivons à ce grand lâchage des harkis.
Si vous voulez, on va remonter quand même un peu en arrière, en rappelant que les harkis étaient une partie des forces supplétives qui ont été utilisées en Algérie. Il y avait les harkis qui étaient des forces plutôt opérationnelles, mobiles. Il y avait les morasnis qui étaient les forces de protection des officiers SAS. Il y avait les GMS, c'était des groupes mobiles de sécurité qui étaient des unités plutôt policières. Et puis, il y avait les autodéfenses qui étaient chargées de la protection dans les villages. Tout ceci représentant un total de 120 000 à 150 000 hommes au début de l'année 1961. À tous ces gens-là, il avait été promis par les différentes autorités civiles et militaires que on assurerait leur sécurité dans l'Algérie future, et même un des derniers commandants en chef, le général Crépin, avait fait une note au début de 1961 disant qu'ils auraient la première place dans l'Algérie indépendante et que il n'y avait pas de problème, et qu'ils resteraient armés et groupés pendant un an. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été appliqué, puisque dès le mois de juin-juillet 1961, le comité des affaires algériennes a décidé de réduire les effectifs, donc effectif harki qui devait tomber de 60 000 à l'époque à 45 000 à la fin de l'année. Les autodéfenses, elles, étaient peu à peu désarmées et supprimées. On ne conservait que les GMS et les morasnis, avec l'idée de les embrigader dans la fameuse force locale, dite force de l'ordre, qui fut plutôt une force de désordre au profit de l'exécutif provisoire. Alors, comment s'est passée la négociation autour des harkis? Il faut savoir quand même qu'un certain nombre de cabinets ministériels aux affaires algériennes à Paris se sont intéressés au sort des harkis et ont dit qu'il faut prendre des mesures pour assurer leur protection et leur sûreté dans l'Algérie future. Et une des mesures, parmi les mesures qui étaient préconisées, c'était d'obtenir la promesse du FLN qu'il n'y aurait pas de représailles. Alors ça a été négocié, et effectivement, à Bâle, au mois de novembre 1961, le FLN a fait cette promesse qu'il n'y aurait pas de représailles au moment et après le cessez-le-feu. Et partant de cette promesse, eh bien, les hommes politiques français ont dit le problème est réglé, et ils ont joué la politique du maintien de la population des supplétifs en Algérie. Il y avait plusieurs mesures qui ont été envisagées. Pour certains, on envisageait de pouvoir les engager dans l'armée française, mais il fallait qu'ils soient disponibles, qu'ils soient aptes, qu'ils n'aient pas de famille avec eux, donc c'était réservé à une petite minorité. Et pour d'autres, on les libérait purement et simplement en leur donnant une prime de libération qui était minime, qui était égale à un mois de solde par année de service. Ça n'allait pas très loin. Et donc, ça s'est passé comme ça. Ça est allé comme ça jusqu'au cessez-le-feu, où on a admis quand même que ceux qui étaient menacés pourraient être rapatriés en France. Et on a fait à ce moment-là un recensement dans toutes les harkis, dans toutes les forces supplétives, et il y a eu très peu de demandes. Il y a eu que 1200 harkis qui ont estimé qu'ils étaient menacés. Ça représentait 5000 personnes avec leurs familles. Et donc, partant de là, on a commencé à pratiquer le désarmement des harkis et de tous les de tous les
supplétifs,
de toutes les forces supplétives. Et ces gens-là sont rentrés dans leur village, mais à ce moment-là, comme l'armée française avait été regroupée autour des villes, il n'y avait plus d'armée française dans le bled. Donc, les harkis rentrant dans leur village, d'une part, ont été pris en main par le FLN. Et d'autre part, ils n'étaient plus au courant de ce qui était proposé pour le rapatriement éventuel de ceux qui se sentaient menacés. Donc, la majorité, il faut bien le reconnaître, que la majorité des harkis ont choisi de regagner leur village. Certains ont été désarmés de façon pas très honnête, un peu par traîtrise, c'est certain, mais la majorité quand même était volontaire pour regagner le village. Pour quelles raisons? Eh bien, il y avait trois raisons. Première raison, ils faisaient confiance aux accords d'Évian. Les accords signés par le général de Gaulle, pour eux, c'était quand même une autorité qui représentait quelque chose. Deuxième raison, le FLN leur a fait des promesses à ce moment-là. Et c'est très net parce que j'ai retrouvé aux archives militaires les directives qui ont été édictées par le FLN dans ces mois de mars-avril 1962. Les directives étaient justement « Montrez-vous conciliant avec les harkis, on réglera leur sort quand l'armée française sera partie. »
Eh oui.
Voilà. C'était écrit en toutes lettres et ceci dans toute l'Algérie. Mais évidemment, ceci, les harkis l'ignoraient. Donc le FLN leur a fait des promesses, on dit maintenant, moi je pense à mes propres harkis, je n'étais plus avec eux malheureusement, les chefs FLN du coin, le petit chef leur a dit maintenant on est tous frères, vous avez fait la guerre, mais bon, vous n'avez pas payé votre cotisation depuis 5 ans, alors vous allez nous donner la prime que vous venez de percevoir, donc ils ont versé leur prime, et puis ensuite on va construire l'Algérie, d'abord vous allez voter pour nous pour l'indépendance le 1er juillet, ce qu'ils ont tous fait, et puis mais évidemment comme conformément aux directives qui avaient été données par les vilayas, à partir des premiers jours de juillet tout le mois d'août, il y a eu un massacre généralisé des harkis. Il y avait eu déjà quelques règlements de compte après le cessez-le-feu, entre le cessez-le-feu et l'indépendance proprement dite, en particulier pour des harkis qui étaient particulièrement menacés, comme le commando Georges qui ont joué un rôle assez bizarre, parce que ils ont cru que, comme beaucoup de ces gens du commando Georges étaient des anciens FLN, ils ont cru qu'en se ralliant au FLN, ils allaient être sauvés, ce qui ne s'est pas passé du tout comme ça, ils ont été immédiatement massacrés.
Dominique Venet voulait intervenir, je crois.
Oui, je voulais dire simplement que si les malheureux harkis ou supplétifs se sont laissés berner, c'est bien compréhensible, comme vous venez de l'expliquer, mon général. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, pas du tout même, et certainement pas excusable, c'est que les autorités politiques françaises aient pu croire, elles, aux promesses du FLN. Et alors, j'en veux pour preuve la position qui a été celle du professeur Maurice Allais. Au mois de mai 1962, il publie un ouvrage, L'Algérie d'Évian, qui est une analyse des accords d'Évian. Et qu'est-ce qu'écrit Maurice Allais? Maurice Allais, il faut savoir, bon, éminent économiste, notre seul prix Nobel d'économie. Par ailleurs, il n'avait aucune sympathie particulière pour ce que l'on appelle l'Algérie française. Il ne croyait pas du tout à l'intégration. En ayant fait, en bon économiste, il avait fait une étude démographique et il estimait qu'il n'y avait aucune possibilité de maintenir une formule française en Algérie. Mais, en revanche, il pensait que cette guerre devait se terminer autrement et que l'on devait accorder des garanties véritables et sérieuses aux gens que nous avions entraînés avec nous. Et voilà ce qu'il écrivait, je vais citer un passage bref de son livre « L'Algérie d'Évian ». Citation. « Il est non seulement inhumain, mais insensé pour le pouvoir de livrer dans de telles conditions le groupe minoritaire désarmé à la merci du groupe majoritaire armé. C'est là une décision barbare qui restera au cours des siècles comme une opprobre ineffaçable pour notre pays. C'était clair.
C'était très lucide.
Alors, parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il faut quand même citer deux mesures qui sont tout à fait regrettables et négatives vis-à-vis des harkis. La première mesure, ça a été le fameux message de M. Jox, adressé le 12 mai aux autorités d'Alger et interdisant aux officiers de...
Louis Jox, le père du futur ministre de l'Intérieur.
Voilà. Interdisant aux officiers de rapatrier leur harki, leur supplétif. Il y avait pas mal d'officiers qui avaient pris l'initiative d'en rapatrier, en particulier des officiers SAS. Donc il y a eu cette première mesure le 12 mai, mais il y a eu une mesure qui m'apparaît encore beaucoup plus grave, c'est le 21 juin, lorsque le comité des affaires algériennes a pris la décision d'interdire les opérations de secours aux personnes menacées. Alors ça, c'est extrêmement grave, parce qu'à partir de ce moment-là, l'armée française n'avait pas le droit d'aller faire une opération si des personnes étaient menacées, que ce soit d'ailleurs des colons européens ou des harkis, ils n'avaient pas le droit d'aller voir ce qui se passait.
Et qui est le criminel qui a pris cette décision ?
Eh bien, c'est le comité des affaires algériennes, présidé par le général de Gaulle. Alors c'est une affaire qu'il faut la suivre depuis
Donc,
son début.
Donc, des dizaines de colons ont été égorgés, et des centaines de harkis ont été égorgés à la suite de cet ordre.
Et l'armée beaucoup plus que des dizaines.
L'armée française est demeurée l'arme au pied.
En général, sauf certains officiers courageux qui n'ont pas exécuté les ordres.
Hein. Mon commandant ?
Moi, je voudrais signaler que certains harkis ont réussi individuellement à atteindre l'Hexagone. Et là, à Marseille ou à Orly, ils étaient attendus par les comités FLN. Ouais. La police n'est jamais intervenue dans ces cas-là. Mm-hmm. Et je voudrais aussi signaler parmi les gens qui sont vraiment occupés de leur harki, le cas du préfet Papon, tous les harkis de Montaner ont tous été recasés. Ouais. Montaner a démissionné et il a passé un long moment, peut-être 3 ou 4 ans, à prendre ses harkis en main, à leur apprendre ce qu'il fallait leur apprendre pour les tirer d'affaires, et la préfecture les a recasés. Mmh. Je pense que deux ont terminé comme commissaire divisionnaire. Certains ont été simples agents ou certains sont retournés à Barbès parce que c'était peut-être leur vocation, mais je pense que justement c'est là, ça justifie la phrase de Badinter. Monsieur Badinter qui a déclaré à propos du procès Papon, où on retrouvait Naudé d'ailleurs, mm-hmm. Badinter a déclaré « Ce que Papon a fait en 43-45, ça n'a pas d'importance. Nous le jugerons et nous punirons pour ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie. »
Oui, c'est très clair. Nous arrivons vraiment au cœur du problème. Mm-hmm. Et Papon donc a sauvé tous les harkis. Ouais.
Tous les harkis.
Mm-hmm. Bon, général.
Bien écoutez, à partir de ce moment-là, il y a eu un rapatriement sélectif de quelques harkis. Je pense qu'on en a sauvé 15 à 20 000 au maximum. Hein. Et tous les autres sont restés en Algérie, et soumis au couteau des égorgeurs. Alors sur le bilan, les discussions ont long cours depuis plusieurs années. Ça va de 30 000 à 150 000. Bon, moi, j'ai fait une évaluation moyenne que j'estime entre 60 et 80 000 harkis massacrés. Mais enfin, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a jamais eu d'études complètes faites sur l'ensemble des harkas et des marzennes. Moi, je l'ai fait pour mes harkis de l'Oued-Berd. Je sais exactement, j'ai publié les noms de ceux qui ont été massacrés. Parce que là, j'ai fait l'enquête.
Quel est le pourcentage de...
50%.
Et les 50 autres pourcents ?
Ben, ils sont en France.
Ils sont en France. Ouais, ouais. Donc, tous ceux qui sont restés sont morts.
Oui. Ouais.
Comment les vôtres ont-ils été sauvés ?
Ce qui est dramatique, c'est que les familles de ceux qui sont morts sont restées en Algérie. Alors, actuellement, j'ai beaucoup d'enfants de harkis tués en 62 qui demandent à être rapatriés et à acquérir la nationalité française. Et là, je me heurte à un refus total. C'est le contraire de tous les préfets, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas moyen de leur faire obtenir.
On préfère naturaliser les sans-papiers. Venu des quatre coins.
Oui, tout à fait.
Pouvons-nous terminer sur la plaque, sur la pose de la plaque, pour nous dire sur la pose de la plaque
qu'il n'y a pas de plaque pour les harkis.
Qu'il n'y a pas de plaque pour les harkis, oui, et qu'il y a une plaque qui a été posée aujourd'hui avec l'aval et la décision de la préfecture, de la mairie de Paris et des grandes autorités et des bien-pensants.
Un auditeur nous dit que la droite, il nous signale que la droite molle s'est révoltée tout de même cet après-midi à l'Assemblée. Elle a quitté presque dans son ensemble l'hémicycle pour protester contre la pose de la plaque, enfin l'anniversaire de 61, je ne sais pas si c'est
compliqué. Ah, mais c'est très bien.
Si les images du Stade de France, l'autre jour, ne servent pas de leçon, et si elles n'ouvrent pas les yeux, que faudra-t-il, grand Dieu, pour faire ouvrir les yeux à nos pauvres contemporains?
Moi, je vous citerai là une phrase que m'a citée Montaner, qui a, de temps en temps, voir les tombes de ses harkis au cimetière de Thiers. On lui a demandé de quel droit il avait mis sur leur tombe « Mort pour la France ».
Voilà, nous en sommes bouquets.
Et tout à l'heure, nous avons parlé de la présence de Chrétienté Solidarité du Cercle National des Combattants de Roger Hollin à la manifestation, justement, de protestation contre la pose d'une plaque à la mémoire des membres du FLN par M. Delanoë. Alors, plusieurs auditeurs nous signalent aussi la présence de Bruno Maigret à cette manifestation.
Oui, nous n'avions reçu qu'un fax de Chrétienté Solidarité. Il faut croire qu'ils sont...
Oui, mais c'est le
que le chrétien est mieux organisé pour la communication avec les médias.
Et le Centre National des Combattants de Roger Hollin.
Oui, très bien.
C'était les deux.
Très bien, très bien. Bon, il y a quand même des gens qui ont sauvé l'honneur aujourd'hui. Mais c'est réconfortant.
Je reçois un message tout de suite qui dit ce soir à 20h, il y a actuellement 3000 félagas derrière M. Delanoë et la Ligue communiste révolutionnaire de Krivine sur le pont Saint-Michel, derrière la diaspora FLN. La police française protège cette manifestation d'un air béat. C'est une honte, nous dit-on, que faire?
On aurait pu parler aussi de la trahison de M. Michelet ou de
Jean Pouvoir à l'époque. Hein. Mais il serait intéressant de refaire une émission sur l'Algérie en général et sur ces points particuliers. Je pense que cette année, puisque nous avons un programme qui est fixé jusqu'au mois de juin, nous pourrions dans l'année prévoir avec vous, mon général, et vous, mon commandant, une autre émission. Il serait intéressant de reprendre ce phénomène de lutte contre le FLN qui est porteur de grandes leçons. Parce que à quoi sert l'histoire si elle ne sert pas à mettre les faits en perspective et à ouvrir les yeux des contemporains et des générations futures?
Mais le terrorisme dont on nous rebat les oreilles actuellement,
tout à fait.
On l'a trouvé il y a 40 ans.
Parce que les générations futures auront peut-être, espérons que non, les générations futures auront peut-être à mener des combats beaucoup plus durs que ceux qui ont été menés dans les années 60 ou dans les années 62. Et l'entreprise de désarmement moral, l'entreprise de désarmement moral et intellectuel qui est menée par tous ces moyens de terrorisme intellectuel, par tous ces moyens soviétiques et staliniens qui font taire les hommes libres, sont des moyens qui servent à désarmer nos contemporains. Et je crains que les jeunes générations qui n'ont pas connu les événements que les uns et les autres avons connus à des générations et des époques différentes, qui étaient des temps de liberté, je crains que les jeunes générations, totalement lobotomisées par le discours politiquement correct et par le prêt-à-penser qu'on leur vend tous les jours à la télévision et dans leurs milieux éducatifs, ne soient que des brebis bêlantes sous les couteaux futurs des égorgeurs. Espérons, Dieu fasse, que ces événements et ceux dont nous venons de parler ouvrent les yeux aux plus lucides, car nous allons entrer dans des périodes très dures. Il faut bien voir que nous sommes peut-être dans une période très proche de celle qu'ont connue les Serbes dans les mois ou dans les années qui ont connu les événements dramatiques des Balkans. Il faut ouvrir les yeux et il faut être fort. Pour être fort, nous devons bien connaître notre histoire, savoir d'où nous venons, où nous allons, et surtout prendre des leçons chez les hommes qui, au moment où il a fallu faire des choix, ont su faire ces choix. Merci mon commandant, merci mon général, car vous étiez de ces hommes-là. Merci de m'y venir.
Oui, je rappelle la conférence de demain soir. Bernard Lugan.
Attendez, j'ai des questions pratiques maintenant.
Oui, questions. Nous avons encore 6 minutes, donc nous pouvons y aller.
Tranquille. Je vous appelle de Montréal, nous dit cet auditeur, où je vous écoute par Internet. Monsieur Lugan, pour vous aider, acceptez-vous les chèques en dollars?
J'ai honte.
Doit-on les rédiger? Mais non, mais c'est pratique,
non,
ça.
J'ai honte, là.
Doit-on les rédiger à l'ordre de Bernard Lugan ou de l'Afrique réelle?
Ben, écoutez, pour m'aider dans les procès, je crois qu'il vaut mieux Bernard Lugan. Pour aider l'Afrique réelle, l'Afrique réelle. Voilà, je ne veux rien dire d'autre. Je suis très gêné par cette proposition. On va croire que c'est un coup monté.
Non, ce n'est pas du tout un coup monté. Ça vient quand même
c'est précis.
De Montréal.
Non, il est évident.
Ne soyez pas gêné, Bernard Lugan. C'est une réalité à laquelle vous devez faire face.
J'ai plusieurs dizaines de procès.
Il est indispensable que les offres de ce genre puissent se multiplier, c'est indispensable.
Merci.
Un autre auditeur nous dit...
Non, sinon j'y arriverai pas.
Un autre auditeur nous dit, rappelez-nous donc le prix de l'abonnement de Thierry Riel, vous ne l'avez pas dit.
380 francs pour 4 numéros, boîte postale numéro 6, 03, 140 à Charroux. Nous avons encore 5 minutes
et
pour
ça. Où a lieu la réunion de demain? Vous ne nous avez pas donné l'adresse.
Alors, Philippe est très inquiet.
La réunion.
Philippe organise la réunion demain, il était très inquiet.
La réunion a lieu à la salle de l'industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés, à 20h30. Et Bernard Lugan donc évoquera le problème du politiquement correct dans l'histoire africaine.
Alors,
à propos
donc,
du bilan de la colonisation.
Redonnez l'histoire, la date.
Demain
soir, donc.
18 octobre. À 20h30.
20h30, 4 place Saint-Germain-des-Prés, la salle d'encouragement de l'industrie nationale.
S-E-I-N.
Voilà. Une information qui nous arrive.
Tiens, il nous arrive une information. D'un auditeur, M. Le Gallou s'est retrouvé entre deux CRS qui l'ont emmené en direction d'un fourgon.
Ah, donc ce soir, ça a bougé, donc, le quartier latin.
Ah bon.
Alors, M. Lugan peut-il redire la référence du Figaro qu'il a attaqué?
Ah, c'est le Figaro Lyon.
Figaro Lyon.
J'ai été attaqué plusieurs fois.
On ne sait pas exactement.
Non, monsieur, toute la presse m'a attaqué, donc je ne sais pas. Mais j'ai le dossier de presse que j'enverrai aux gens qui m'écriront, donc boîte postale numéro 6. J'ai fait faire un dossier de presse pour que nos éditeurs puissent véritablement voir à quel niveau d'abjection l'attaque a pu être portée.
Et puis, je rappelle le titre du livre de M. Raymond Muel, 7 ans de guerre en France. Quand le FLN frappait en métropole. Il est publié au Trésor du patrimoine pour le prix de 140 francs. On le trouve aussi à la librairie de l'Ancre.
Donc, le colonel Muel.
Et le dernier livre du général Fèvre aussi. Les dossiers.
Mon général, oui.
Les archives.
Les archives secrètes.
Les archives inédites de la guerre d'Algérie.
De la politique algérienne. Oui.
Attendez, dites-le lentement parce que les auditeurs notent.
Les archives inédites de la politique algérienne aux éditions de l'Harmattan.
De la politique. Attendez, je note parce que.
Mais nous verrons tout à l'heure.
On a tout le temps, on a encore 3 minutes. De la politique algérienne.
Chez quel éditeur?
L'Harmattan.
Mon général, mon commandant, êtes-vous d'accord pour une prochaine émission sur l'Algérie?
Je pense qu'il faudrait aborder le problème des SAS et de l'action humanitaire au profit des populations.
À propos d'action humanitaire, un auditeur nous écrit un message. J'ai vacciné en cachette les familles de harkis afin de pouvoir les faire rentrer en France. Il y a des gens qui se sont bien mouillés et qui sont admirables, et il y en a d'autres qui se sont comportés d'une manière absolument ignoble, lâche pour ce qui est de moins grave et d'ignoble pour ce qui est de plus grave.
Autre question, organisez-vous toujours le pèlerinage de Martel?
Non. Mais ça a tout à fait le moment, c'est le truc idéal dans le contexte actuel, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, oui, bien sûr. Je peux aussi acheter 2 cordes pour me pendre, et ce serait encore des questions.
Attends,
dites-moi, vous êtes un peu dissipé. Messieurs, vous êtes un peu
dissipé.
Une émission avec des militaires, avec des officiers supérieurs, et c'est une totale anarchie. Il faut que les civils remettent un peu d'ordre. Sédante armatoguée.
Deux annonces alors. Les chapitres normands du pèlerinage de Chartres vous convient à leur pèlerinage à Lisieux le dimanche 21 octobre prochain. Rendez-vous à 9h à l'église de Piancourt, pique-nique tiré du sac, à 12h à Hermival-les-Vaux, messe solennelle à la basilique à 15h, célébrée par Mgr Vac.
Mon général.
Je voudrais signaler que le 15 novembre, à une salle de la mairie de Boulogne-Billancourt aura lieu un colloque organisé par l'Union nationale des combattants et par l'association de soutien à l'armée française, où on abordera tous les problèmes de la guerre d'Algérie en présence de parlementaires et, il l'a promis, du secrétaire d'État aux anciens combattants.
J'espère qu'on recevra d'ici là un papier qui nous redira tout et nous le redirons au moment où ce venu. Je donne toujours les renseignements pour le pèlerinage. Rémi l'Ancien, 02 31 73 78 67. Il y aura une messe, place de la Discorde, nous dit cet auditeur mal intentionné, pour la reine Marie-Antoinette, dimanche 21 octobre.
Ah oui.
Et puis, mercredi 24 octobre prochain, à 20h30, à la salle Lumière, toujours 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Sur le thème « Islamisme et terrorisme », avec la participation entre autres de Guillaume Fay. Roger Tébib et Alain Pascal.
Bien, mon général, bonsoir. Mon colonel, mon commandant, bonsoir. Dominique Vénère, bonsoir. Philippe Conrad, bonsoir. Victoria, je vous fais une grosse bise et merci. Bonsoir.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre.
La prochaine émission, le 7 novembre. C'est cela, notre prochaine émission.
7 novembre.
C'est cela, je crois, oui. Monsieur.
Il n'est pas sage. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays.